Vous remercier et vous saluer de votre présence aujourd'hui pour ces quatrièmes journées d'automne de la créativité dans les territoires. On aura l'occasion d'en reparler durant tous ces trois jours, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus pour l'instant. Je vais surtout donner la parole à Marie-Pierre Faurite, qui va être le chef d'orchestre de la matinée, qui va se présenter, qui va présenter l'intervenante dans un premier temps, et ensuite l'atelier qui suivra.
Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur d'introduire cette matinée. Je remercie Jackie Deniol pour son invitation. Il est vrai, quand on voit le thème de la matinée et ce projet avec ce premier atelier ce matin autour de cette relation entre la culture et l'entrepreneuriat, la culture et les entreprises, il est vrai que c'est le sujet pour lequel j'avais contacté Jackie il y a 3 ans maintenant, lorsque j'ai rejoint la plateforme pour justement participer à cette réflexion. Donc je suis Marie-Pierre Faurite, consultante culturelle et secrétaire générale de la compagnie Le Grain Théâtre de la Voix, dirigée par Christine Dormois. Et la raison pour laquelle je suis à ce carrefour entre culture et entreprise, c'est que mon activité professionnelle est tournée vers le marketing culturel, qui est assez souvent perçu comme surprenant. Surprenant de faire du marketing dans la culture, et pourtant c'est bien une forme d'entrepreneuriat aussi. Donc je vais rapidement vous présenter le rythme de cette matinée. Nous allons démarrer avec une mise en perspective qui va être faite par Anna Trépeuche, que j'ai le plaisir d'accueillir, qui est auteur du livre « L'international situationniste ». Il va s'agir donc d'une introduction sur les thématiques croisées des trois journées qui s'annoncent. Puis nous démarrerons l'atelier « Créativité, donc entrepreneuriat dans les territoires » sous l'angle de cette relation entre le secteur culturel, les acteurs culturels, la société civile et les entreprises. Nous allons nous engager dans un regard croisé à partir de 4 expériences terrain. Donc là, on va être vraiment sur du très concret, avec des interventions qui vont se succéder. Donc j'appellerai les intervenants au fur et à mesure, et nous en tiendrons à des présentations suffisamment courtes pour que le dialogue puisse prendre place très rapidement. L'idée étant qu'on se tourne vers cette analyse finalement de possibles freins aujourd'hui existants entre comment ces deux mondes se rencontrent. Et donc l'idée étant d'avancer vers des solutions, des pistes de solutions, voir si on peut multiplier les actions, comment mobiliser les acteurs de part et d'autre, tout en maintenant donc cette approche croisée du point de vue de la culture d'une part et du point de vue des entreprises. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Anna Trépeuche.
Merci. Donc je vais vous parler donc de l'international situationniste, qui a priori a des liens assez ténus avec les thématiques que vous allez traiter, mais qui en réalité, y a quand même un lien, on lui prête souvent la paternité de la notion de créativité. Voilà. Donc qu'est-ce que les situationnistes mettaient derrière cette créativité ? Et donc, tout d'abord, qui sont les situationnistes, puisque vous n'êtes peut-être pas familier de ce groupe, qui est un groupe à la base d'artistes, hein, groupe d'avant-garde artistique, qui est fondée donc en 1957 en Italie. Donc vous voyez, ils sont très peu. C'est un groupe qui restera toujours assez confidentiel, hein, jamais plus de 12 personnes en même temps. En tout, il a réuni 70 hommes, surtout des hommes, et quelques femmes, donc pas seulement en France, mais en Europe et aux États-Unis. Donc c'est un groupe international fondé par des artistes, mais qui se mue en groupe politique d'extrême gauche dans les années 60. Et en fait, sa théorie, la théorie du mouvement situationniste, fait connaître du grand public dans les années 68. Et la mémoire de ce mouvement, qui est très forte encore aujourd'hui, reste vraiment associée à cette période de contestation. Donc c'est un mouvement donc, qui est fondé en 1957, que son leader Guy Debord dissout en 1972. C'est une théorie radicale qui rejette le système capitaliste et qui dénonce les mécanismes de la société de consommation qui est alors naissante. Quelques points comme ça pour situer un petit peu la spécificité de ce mouvement et pourquoi est-ce qu'il a une telle postérité, puisque moi j'ai travaillé beaucoup sur la postérité de ce mouvement. Donc c'est un mouvement déjà qui est international, hein, ses idées ont circulé en Europe occidentale et en Amérique du Nord, même au Japon. Et il est au carrefour donc du culturel et du politique, et c'est ça qui aussi fait sa force. Puisque ses fondateurs et ses membres se veulent les héritiers de Dada, des surréalistes, qui ont voulu sortir l'art du musée et ont voulu l'intégrer dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est une thématique qui est très importante chez eux. Ils sont aussi les héritiers du mouvement ouvrier, hein, depuis le 19e siècle, mais ils... condamne toutes les révolutions communistes du XXe siècle, de ce qui s'est passé donc, en URSS à ce qui s'est passé en Chine, à Cuba, etc. Donc ils cherchent une autre voie. Autre spécificité de ce mouvement, je l'ai un petit peu dit, c'est sa postérité qui est très importante. C'est un mouvement qui a une résonance aujourd'hui encore pour les intellectuels qui proposent une critique sociale. Pour les architectes et les urbanistes, donc je développerai un petit peu ce point-là, pour les artistes donc, de tous bords, et pour les militants politiques radicaux, évidemment. Donc voilà, il m'a semblé que ce qui pouvait vous intéresser ici, c'était donc cette notion de créativité, et en particulier donc la notion de créativité dans leur réflexion sur l'urbanisme, comment elle a été forgée et comment elle a été ensuite réappropriée par les architectes et les urbanistes jusqu'à nos jours. Donc, premier point, voilà, qu'est-ce que la créativité pour les situationnistes ? Pour situer toujours un petit peu les choses, dans l'histoire de cette organisation, il y a deux grands temps, la période artistique et la période politique. Et donc, je vais m'intéresser essentiellement donc, ici à la période artistique, qui finit en 1962, quand les artistes sont exclus, et que donc ce sont essentiellement des artistes scandinaves et allemands, et ces artistes exclus vont aller fonder une deuxième internationale situationniste qui aura, où ils montreront qu'on peut continuer à faire une critique en continuant à faire des œuvres d'art, ce que Debord, Van Eghem et les autres restés dans la section française condamnent. Hein. Ils disent que on ne peut pas critiquer. On ne peut pas critiquer l'art, on ne peut pas critiquer la société en faisant des œuvres d'art. Cette notion de créativité, on l'attribue souvent à Van Eghem, qui a écrit en 1967 le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. En réalité, quand on reprend cette histoire, cette notion de créativité, on la trouve déjà dans les textes de Constant. Constant, qui est-ce ? C'est un peintre néerlandais, dont vous avez donc la photo ici projetée. C'est un peintre néerlandais qui arrive dans l'IS donc, dès 1958, mais qui a déjà eu une réflexion, notamment au sein d'un collectif artistique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le collectif Cobra, COBRA, c'est l'acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Donc c'est un collectif d'artistes héritiers du surréalisme, mais critiques des surréalistes, qui mène une réflexion et qui aussi réalise des œuvres d'art. Et donc, on est dans les années d'après-guerre. Il faut s'imaginer donc que la culture communiste imprègne les milieux artistiques et intellectuels. Et la question que Constant se pose, c'est comment renverser le système social à partir de la sphère culturelle. Et donc, dans cette perspective, il fait un bilan de l'histoire occidentale et il écrit que... après, je cite, hein, « Après avoir glorifié le pouvoir des empereurs et des papes, dont elle s'est employée à flatter l'apparence, la culture occidentale s'est mise au service d'un nouveau pouvoir, la bourgeoisie devenue un moyen d'exaltation des idéaux de cette dernière. » Donc on est dans une perspective marxiste, mais Constant et les peintres de COBRA ne veulent pas renverser le système social en changeant les dirigeants politiques, mais en agissant sur l'expression artistique et sur les moyens d'expression culturelle. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'expression artistique, c'est quelque chose de fondamental, c'est un besoin fondamental. Je l'ai mis ici dans cette citation donc, qui date de 1948, hein, qui est assez percutante parce que finalement... on est sur des thématiques qui sont vraiment reprises dans les années 68. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'expression artistique, c'est notre élan vital, c'est quelque chose d'absolument fondamental, c'est notre besoin primaire fondamental. Et donc, il est dans une démarche où il faut libérer cette énergie qui est présente chez tout un chacun dès l'enfance. Hein. Les peintres de COBRA insistent vraiment sur les facultés des enfants. Avoir une créativité quelque part vierge et que finalement les normes culturelles vont venir ternir, faire disparaître. Donc Constant, dès ces années d'après-guerre, appelle à reconquérir cet espace vierge. Alors il le nomme tour à tour intuition, inconscient, élan vital ou créativité. Et donc ce terme, on le retrouve, en tout cas il a été traduit comme tel, du néerlandais au français. Sous cette expression donc de créativité. Une autre citation qui est très dans les années 68, hein, « La liberté ne se manifeste que dans la création ou dans la lutte, qui au fond ont le même but, la réalisation de notre vie. C'est la vie qui exige la création et la beauté, c'est la vie. » Voilà, donc Constant, qui a déjà mené cette réflexion, va la poursuivre au sein de l'international situationniste avec Guy Debord, donc autre figure de ce mouvement. Donc vous avez donc une photo dans les années 50, il est tout jeune. Guy Debord, à cette époque-là, il est avant tout cinéaste. Et donc, c'est un des grands théoriciens de ce mouvement. Et ensemble, donc, ils réfléchissent à une voie culturelle pour une révolution qui ne serait pas récupérée, qui ne donnerait pas lieu à la bureaucratisation qu'ils critiquent en URSS ou en Chine. Donc, en 1960, Guy Debord et Constant rédigent un manifeste et ils expliquent un petit peu ce que sera la révolution situationniste. Et donc... on est sur un mode utopique, hein, la cité situationniste, surtout dans cette première période de l'organisation, est une cité avant tout utopique. Mais vous voyez qu'ils ils expliquent que dans cette cité situationniste aboutie, il y aurait, tout le monde deviendra artiste, mais artiste, encore une fois, à un stade, enfin, dans une acception qui n'est pas celle... qui n'est pas l'acception commune, mais être artiste, qu'est-ce que c'est ? C'est construire sa propre vie. Et c'est donc mobiliser toutes ces facultés dont on a parlé tout à l'heure pour vivre différemment. Donc, en réalité, il y a deux choses derrière cette utopie situationniste. Construire, inventer un homme nouveau et aussi inventer un décor nouveau, c'est-à-dire inventer un urbanisme nouveau. L'homme nouveau, donc c'est pareil, c'est une thématique qui court tout au long du XXe siècle, que ce soit chez les artistes ou chez les politiques. L'homme nouveau, selon les situationnistes, c'est un homme qui se définit essentiellement tout d'abord par le jeu. Le jeu, tout ce qui est ludique, doit devenir une activité essentielle dans cette cité utopique. Mais évidemment, ce n'est pas, c'est tout le contraire du loisir. On entre dans la société du loisir dans les années 60. Et donc, le jeu, c'est une contre-proposition à ce qu'ils appellent le vaste secteur industriel des loisirs, qui est un incomparable instrument d'abrutissement du prolétariat par des sous-produits de l'idéologie mystificatrice et des goûts de la bourgeoisie. Autrement dit, le loisir, la société du loisir, c'est une manière pour la bourgeoisie d'asservir le prolétariat. Et donc, il faut trouver, encore une fois, une autre voie. Donc un homme, l'homme le situationniste est un homme ludique, c'est un homme notamment qui pratique la dérive. La dérive, c'est ses promenades dans l'espace urbain à la recherche des sentiments que chaque quartier, chaque rue, chaque rencontre peut susciter. Ce sont donc des dérives que Guy Debord et ses camarades pratiquent dès les années 50, à Paris en particulier, et qui donnent lieu à des comptes rendus, donc, encore une fois, d'une autre géographie qu'ils appellent la psychogéographie, qui est une alternative, encore une fois, à l'idéologie dominante. Donc, un homme avant tout ludique, donc qui pratique la dérive. Et deuxième point, l'homme situationniste donc devra vivre dans un décor nouveau. Alors ils sont très remontés contre les architectes de l'époque, et en particulier contre Le Corbusier. Le Corbusier qui propose une architecture fonctionnaliste, il explique que l'homme a différentes fonctions primaires, plusieurs besoins primaires dans sa vie, et donc il faut quelque chose de fonctionnel. Et donc les situationnistes, évidemment, expliquent que les bars et les grands ensembles que propose Le Corbusier sont des prisons, des espaces absolument sordides. Et donc, voilà, qu'est-ce que le nouvel urbanisme selon les situationnistes ? Eh bien, ils y travaillent, ils créent un bureau de recherche pour l'urbanisme unitaire. Ils expliquent. Alors, pour faire les choses peut-être rapidement, ils font des propositions, voilà, qui sont encore une fois sur le mode utopique. Première formulation de ces propositions, ce sont des maquettes que Constant en particulier fabrique. Donc, ils sont à base d'acier et de plexiglas. Ce qui est important dans ces maquettes d'une cité utopique, c'est avant tout la mobilité. Il faut que les espaces soient changeants, que les hommes puissent passer d'un espace à l'autre. Constant est très fasciné par le mode de vie d'Igan. Et donc, il reporte ça un petit peu dans ce qui deviendra son projet après l'international situationniste, quand il va la quitter, ce qui s'appelle la New Babylon. Donc, des espaces, des propositions sous forme de maquettes, et puis aussi des propositions sous forme d'exposition dans des galeries. Ici, donc, c'est une exposition qui est assez célèbre, qui s'appelle « La caverne de l'antimatière ». Vous voyez donc une jeune femme qui est recouverte par un vêtement fait à partir de toiles peintes. Et donc, vous voyez que le plafond, les murs, le sol sont recouverts aussi de toiles peintes. Alors, c'est pareil, ce ne sont pas... l'idée pour le visiteur, c'est de montrer ce que pourrait être une ambiance de cette cité situationniste. Les toiles qui sont présentées ici, ce sont des toiles qui ont été peintes au maître. Donc l'idée, c'est de casser la relation marchande entre donc l'artiste et l'acheteur, c'est-à-dire que l'acheteur achète en fonction de la superficie et non plus en fonction de ce que dicte le marché de l'art. Donc il y a cette idée de rompre avec le marché de l'art et ses normes. Et il y a aussi l'idée de présenter donc ce que pourrait être donc un intérieur d'une maison situationniste, même s'ils ne le disent pas du tout comme ça, c'est-à-dire donc avec des toiles qui ne sont pas du décor, puisqu'ils sont aussi contre le décor, le design, toutes les formes marchandes de l'art. Et donc, voilà, ça pourra susciter éventuellement des discussions. Dernier acteur que je vous présente ici, c'est Raoul Van Eghem, donc, que vous avez en photo ici, qui donc... pour la petite histoire, dépose son manuscrit. Enfin, finalement, son manuscrit est accepté. Il a eu beaucoup de mal. Hein. Donc, le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Il a fait beaucoup de maisons d'édition. Finalement, il sera édité chez Gallimard en 1967. Et donc, voilà, au moment où son manuscrit est repris, la secrétaire de Gaston Gallimard lui écrit « Monsieur Van Eghem, il y a un mot qui n'est pas français, c'est le mot créativité, est-ce que vous pouvez le retirer ?» Et donc, Van Eghem, qui est quelqu'un de très obstiné, maintient cette notion de créativité et donc la développe dans son traité. Et donc, ça, c'est vrai que cette notion de créativité, je pense qu'elle vient un petit peu quand même de ce traité, même si les histoires de généalogie intellectuelle sont toujours délicates. Donc en particulier donc, dans son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, donc, il consacre tout un chapitre à la créativité, la spontanéité et la poésie. Donc ce traité, il a vraiment pour vocation de dénoncer les mécanismes qui aliènent les individus dans la société de consommation. Des individus qui sont atomisés, des individus qui sont donc séparés les uns des autres et qui vivent dans un état de survie. Hein, ce terme de survie, il est très très présent dans la prose de Van Eghem. Et donc, il écrit, hein, au XXe siècle, c'est moins la mort qui épouvante les hommes que l'absence de vraie vie. Voilà. Et donc, il propose des solutions à la différence de Debord, qui sont des solutions au niveau vraiment subjectif, au niveau individuel. Et il reprend vraiment ces thématiques que l'on a vues chez Constant 20 ans avant, ces thématiques de la créativité, d'aller chercher donc, cette créativité qui est présente en chacun et de l'exprimer directement, spontanément, hein, comme la citation le montre. Et donc, le monde qui est prôné par Van Eghem, évidemment, c'est un monde où la poésie sera le lien entre les hommes. Voilà, donc je passe sur un certain nombre de choses. Alors, cette notion de créativité, je la décris vraiment à grands traits, elle est reprise en particulier par les architectes, les urbanistes. Donc évidemment chez Constant qui poursuit son œuvre, hein, il démissionne en 1960 mais il poursuit son œuvre en cavalier seul et il réfléchit pendant 10 ans à la New Babylon, hein, cette cité que serait qui serait donc construite sur les principes qu'il a sur lesquels il a réfléchi, hein, donc mobilité, le jeu, la créativité, l'expression des passions aussi, qui est une thématique très importante. Et donc, il aura pas mal d'échos, notamment auprès des provos. Les provos, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce sont donc des jeunes contestataires néerlandais qui... ont des relations, donc deuxième partie des années 60, hein, qui ont des relations avec les situationnistes, bon, et finalement ils se fâchent. Ils se fâchent notamment, enfin Debord se fâche avec les provos, notamment parce qu'ils acceptent de participer à des élections municipales d'Amsterdam. Et les provos, ils sont importants parce qu'ils vont notamment. Participer à. La réfection urbanistique d'Amsterdam en aménageant des voies pour les vélos, en ayant vraiment une conscience environnementale assez précoce. Et donc les provos sont très enthousiastes et reprennent les idées de Constant qui les calme un petit peu en leur disant que le temps de construire vraiment la New Babylon n'est pas encore arrivé, mais donc il va y avoir une filiation très très forte aux Pays-Bas entre Constant et les provos. On a également une réflexion qui est poursuivie par les architectes d'un groupe d'avant-garde qui s'appelle Archigram, Peter Cook et Michael Webb, qui en 1963-1964 justement aussi poursuivre l'œuvre de Constant à travers ce projet donc, de city planning. Troisième exemple, on est plus dans les années 90. Francesco donc Carreri en Italie donc pareil met en place un petit groupe d'architectes qui s'appelle qui se baptise donc Stalker qui vient donc du film d'Andrei Tarkovsky dans lequel un stalker justement conduit deux personnes d'une ville habitée vers un territoire abandonné et interdit. Et là se trouve la chambre où tous les désirs peuvent se réaliser. Donc ce groupe va mener des dérives à la mode situationniste dans des espaces surtout qu'ils aiment en friche, des espaces donc urbains en friche, des espaces industriels ou des espaces abandonnés, des terrains vagues, des interstices en déshérence. Et ils mènent des démarches qui peuvent aller jusqu'à des marches de plusieurs jours. En 1995, par exemple, donc, ils ont fait une boucle de 70 km autour de Rome. Et ils ont restitué ils restituent, comme les situationnistes, donc, leur marche dans des dispositifs qu'ils présentent à l'intérieur des musées. Sous forme de séquences vidéo, de diapositives ou de cartes, mais de cartes repensées selon les émotions qu'ils ont pu éprouver tout au long de leur dérive. Voilà, donc ce sont des petits exemples pour vous montrer que dans le secteur de l'urbanisme, les situationnistes ont eu une postérité et leur projet a été repris. Évidemment, ça a été la même chose dans le domaine de la critique sociale, dans le domaine des pratiques picturales, chez aussi les hommes de presse et chez les militants politiques avec un groupe comme Tikkun, etc. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter ce qu'ils mettent derrière cette créativité. Et c'est vrai que j'étais un petit peu... embêtée puisque vous voyez que la réflexion des situationnistes, je finis là-dessus et je vous donne la parole, la réflexion des situationnistes a été, ils ont beaucoup réfléchi à ne pas, à comment ne pas être récupérés, comment ne pas, ils sont vraiment dans une démarche révolutionnaire, c'est pour ça que voilà, on peut en discuter de ce que ça veut dire et de pourquoi. Je vous laisse la parole.
Donc, place aux questions. Qui veut intervenir? Alors, la règle du jeu, c'est de se présenter puisque tout est enregistré. Donc, comme ça, on saura qui a dit quoi. On pourra remonter jusque-là. C'est la première qui est toujours la plus difficile. Bon, peut-être pour me permettre qu'elle se... Vous avez cité Debord et Van Hegem, les deux livres de référence, puisque je crois qu'on a la chance d'avoir une libraire pendant 3 jours, donc éventuellement vous pourrez les consulter.
Le grand opus de Debord, c'est la Société du spectacle. Société du spectacle qui théorise le fonctionnement de la société... de consommation, société de loisirs, donc il y a une critique très globale du système, et le traité de savoir-vivre donc des jeunes générations qui est écrit par Raoul Van Hegem, donc c'est une démarche, c'est aussi une critique donc dans la même veine, mais qui se situe davantage à l'échelle de l'individu, de la subjectivité. Van Hegem est beaucoup plus dans les passions, tout, voilà, le jeu. Voilà. Mais on est plus sur des thématiques peut-être qu'on associe aux années 68, alors que Guy Debord a une critique beaucoup plus froide et plus systématique. Voilà. Mais donc la société du spectacle et le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qui sont sortis tous les deux en novembre 67. Voilà, je...
Mustapha Karki, professeur de sciences économiques et sociales. Première question, le courant situationniste existe encore aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des artistes qui animent, qui font vivre cette...
Alors, c'est un mouvement qui a
été... mouvement ou...
Non. Oui, oui. Non, c'est un mouvement qui a disparu. Enfin, qui... Guy Debord a sabordé le mouvement en 1972. Donc, 1972, c'est un mouvement qui n'existe plus. Après, Guy Debord... Justement, je montre dans mon ouvrage comment il fait vivre l'héritage situationniste dans sa propre œuvre. Comment est-ce que... Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est la manière dont ce mouvement est personnifié, en fait, par les médias dans les années 90. Donc, c'est un mouvement qui meurt en tant que tel, mais sa mémoire disparaît dans les années 80 et est ravivé dans les années 90, ce qui n'est pas un hasard. On est après la fin de la guerre froide et c'est un mouvement que les médias redécouvrent, que les jeunes militants redécouvrent, que les artistes redécouvrent. Et ils lui trouvent une très grande pertinence, une très grande actualité. Et donc, depuis les années 1990, quelque part, ce mouvement n'existe plus. Les acteurs, si Van Egem est encore vivant, René Vienney est encore vivant, mais c'est un mouvement qui finalement a été repris par les épigones, par les disciples, par les gens qui s'en réclament et qui en ont fait finalement complètement autre chose. Par exemple, aujourd'hui, la théorie situationniste, souvent dans les médias, quand vous trouvez cet adjectif-là, ça revient à critiquer les médias, à critiquer le fait qu'il y a des images partout, alors que en réalité, en 67, sa critique est une critique marxiste beaucoup plus vague et abstraite qu'une critique comme ça ciblée. Donc voilà, c'est un mouvement qui a une très grande postérité, et donc il y a une confusion un petit peu entre son existence même, dans le contexte de l'époque, et la mémoire qu'on... les mémoires, puisqu'il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de...
C'est quoi le courant situationniste aujourd'hui avec auquel vous faites allusion dans les années 1990 puisqu'il y a une opposition nette entre cette dimension créative
oui.
et le refus d'une société, comme on l'entendait dans les années 60, société de la consommation. Aujourd'hui, on est complètement dans un autre paradigme, puisque... Oui. Puisque, évidemment, la société marchande, elle est quasiment partout. Quelle est la place de la créativité? Comment elle s'inscrit dans est-ce qu'on peut penser les choses, la créativité, en système, quoi? Puisque c'était la dimension originelle, c'était de refuser le système. Aujourd'hui, la dimension de créative, les conditions de la créativité n'échappent pas, je dirais, à des nécessités parfois... marchande, je dirais, de consommation. Donc, comment aujourd'hui vous dépassez ces deux antagonismes apparents qui l'étaient dans les années 30, 40, 50, et aujourd'hui, répond à... doit pouvoir s'inscrire, je dirais, dans une autre logique, à savoir...
Oui. Oui. Là, vous me posez une question qui me dépasse un petit peu. C'est-à-dire, vous me demandez de réconcilier deux choses qui sont inconciliables. C'est-à-dire que... je suis historienne, donc je rapporte ce qui...
Vous êtes situationniste.
Non, je ne suis pas une situationniste. J'essaie de comprendre les mécanismes de cette réception. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que... oui, il y a peut-être un hiatus aujourd'hui entre une interprétation récupérée, parce que c'est le terme, c'est la grande phobie des situationnistes, une utilisation récupérée de cette théorie, c'est-à-dire qu'on voit comme ça en pointillé dans les articles de presse pour... en gros, le terme de situationniste, c'est la petite touche sulfureuse qui...
voilà, qui fait bien. Et donc, à côté de ça, pour dire voilà, qu'on est dans une posture un peu critique, sans remettre forcément le système en cause, et à côté de ça, il y a des artistes qui sont vraiment dans une posture de refus. Donc, ce sont des individus ou des groupes qui, socialement, sont marginaux, sont vraiment dans une démarche libertaire de refus de cette société marchande, même si, comme vous dites, on est dedans. Oui. Donc,
D'autres questions ? D'autres remarques ? D'autres... Tu te présentes en même temps, Bruno ?
Bonjour, Bruno de Beaufort, je suis directeur du Centre national des arts de la rue, encore en Poitou-Charentes et encore à New York pour un petit moment. Mais là, quand j'entends la discussion et aussi sur le rapport à comment la société évolue, je me demandais s'il n'y avait pas un lien ou un cousinage entre le situationnisme et ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui a l'air de devenir la nouvelle Babylone, c'est les droits culturels. C'est-à-dire qui est en train de sortir dans la loi NOTRe, la loi qui va s'occuper de la nouvelle organisation territoriale, qui est même pour nous, qui sommes dans les arts de la rue et de la culture, est plus importante que la loi sur la création qui vient de sortir aussi, enfin qui est en train de sortir. C'est les droits culturels, et ça rejoint ce que vous racontez là, j'ai l'impression, mais à mon petit niveau, je ne suis pas un théoricien, l'idée que tout le monde peut exprimer sa culture, sa créativité justement, et c'est une question de rencontre entre les dissensus. C'est une question de c'est justement de ne pas opposer la création professionnelle et amateur, et d'imaginer que tout le monde peut rencontrer l'artiste qui est dans l'autre. Et ça, c'est en train justement, c'est en train de sortir comme étant quelque chose qui va être le fondement de cette nouvelle organisation. Dans la loi NOTRe, il est dit que la responsabilité en matière culturelle et en matière de droit culturel doit être partagée par toutes les collectivités. Donc tout le monde a cette responsabilité aujourd'hui de réfléchir à cette situation, si j'ose dire.
D'ailleurs, juste peut-être ajouter, c'est peut-être aussi la ligne de fracture qu'il y a entre Debord et Van Eghem, puisque Van Eghem insisterait peut-être plus davantage sur la subjectivité radicale et donc le droit à l'expression de construire sa vie comme une œuvre d'art, alors que Debord est peut-être plus théoricien de la société du spectacle. Je ne sais pas, je mets mon grain de sel, si j'ose dire, en tant qu'ex-situ, comme on dit, voilà, mais il y a fort longtemps.
Oui, tout à fait. Après, sur le papier. Après, les situationnistes, c'était un groupe très élitiste, dans le sens où, finalement, on n'exprime pas sa créativité qui veut, en réalité. Et donc, quand Guy Debord dissout le mouvement en 1972, par exemple, il avance l'argument, qui est un prétexte en réalité, mais il avance l'argument que voilà, il y a trop d'épigones qui sont un petit peu... qui sont très, très, comment dire... très motivé, qui sont vraiment transformés par leurs textes, etc. Et quelque part, il veut, en 1972, il dit voilà, le mouvement cesse d'exister puisque il y a trop de disciples qui n'ont pas bien compris dans le détail notre théorie. Et donc, si vous voulez, le discours à l'évidence par rapport à cette loi, si Debord était encore vivant, Van Eghem faudrait lui demander, si Debord était encore vivant, ce serait que c'est un moyen de donner apparemment les moyens de développer sa créativité. Mais en réalité, c'est le système qui veut encadrer... tuer cette créativité. Je pense que ce serait ce genre de discours. Mais bon, voilà. Mais après, c'est une théorie radicale qui rejette tout le système. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas d'alternative si ce n'est une utopie.
Boris Lebeau, Université Paris 13. Moi, j'aurais une question pour savoir s'il y a des artistes aujourd'hui, quels sont aujourd'hui qui se réclament de ce mouvement. Parce qu'on voit bien qu'on avait dans ce, dans ce mouvement situationniste une critique fondamentale en fait, de l'ordre productiviste, qu'il soit capitaliste ou marxiste finalement. Et ce qui est marrant, c'est que la critique artiste, elle a été totalement récupérée par le marché aujourd'hui, et la créativité aujourd'hui est totalement récupérée par le marché pour valoriser les économies locales, etc. Et il me semble que peut-être, j'ai l'intuition, je ne sais pas, hein, qu'à mesure que toute la société s'encastre dans le marché, que le marché connaît aujourd'hui certaines déconvenues, qu'on a un urbanisme spéculatif qui n'est pas forcément du meilleur goût un peu partout dans toutes les villes d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord, eh bien on voit cette critique artiste réapparaître comme une critique du capitalisme. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une filiation finalement entre ces idées de l'international situationniste et ces mouvements de critique, tout simplement, de critique du capital, qui font appel justement à la créativité artistique. Donc on sent une déconnexion finalement entre le mouvement artistique et le capitalisme, alors que dans les années 90-2000, il y a eu des vrais courants de pensée pour les reconnecter. Mmh.
Oui, bien sûr. Enfin, après, ce sont des filiations qui ne sont pas forcément directes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont lu, qui ont été nourris. Leur réflexion a été enrichie par les textes d'international situationniste, etc. Après, moi, j'insiste. Dans mon ouvrage, j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas simplifier non plus les choses. C'est-à-dire que même les situationnistes, à leur époque, étaient dans l'ambiguïté, c'est-à-dire que dans leur période artistique, vous voyez Asger Jorn qui est à la gauche de Debord. Asger Jorn, il était au sommet de sa carrière artistique. C'est un très grand artiste qui était enfin reconnu. Hein. Il est né en 1914, donc il a une cinquantaine d'années. Et donc, la vente de ses œuvres finançait les activités subversives de l'international situationniste. Donc, vous voyez, c'était déjà ambigu chez les situationnistes. Donc, il ne faut pas non plus... derrière la théorie, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, oui, en effet, sur cette critique artiste qui remet globalement le système en cause, oui, bien sûr, les situationnistes, leurs livres sont très très bien vendu quoi aujourd'hui encore. C'est vraiment une théorie qui a l'atout aussi de ne pas avoir été associée à un mouvement politique, c'est-à-dire qu'elle ne s'est fourvoyée, elle ne s'est jamais fourvoyée dans aucune expérience politique, et donc il y a cette virginité et cette fraîcheur encore aujourd'hui.
Bien, je remercie Anna Trépeuch beaucoup pour cette introduction des trois journées, pour cette mise en perspective et pour vos contributions déjà pour enchaîner du coup sur l'atelier qui sera co-animé par Jean-Marc Neveu, que j'appelle du coup à la table, et Anne Loussouarn également. Je vais à l'écart pour pouvoir ensuite accueillir les intervenants. Voilà. Voilà, donc nous sommes un petit peu concertés sur une proposition de timing que nous vous proposons. Donc une co-animation avec à deux têtes l'approche culture. Je vais rester très très schématique là dans cette introduction, et puis entrepreneuriat. Viendront donc de rejoindre à la table donc quatre personnes qui vont présenter des expériences très concrètes. Là, on va attaquer, je dirais, une partie très très concrète. L'idée étant de conserver dans les échanges, et donc le dialogue est ouvert à la salle. Peut-être une fois que la présentation de chaque cas aura été faite, l'idée est bien de dialoguer sous deux axes. Donc, d'une part, de voir comment ce lien
du côté des entreprises existent aujourd'hui sur les cas donc, qui vous seront présentés, mais sur d'autres qui sont certainement dans la salle, et comment ces entreprises entrent en contact avec les artistes, avec les acteurs culturels, avec les acteurs de la société civile, et par ailleurs, comment, à l'inverse, les acteurs des secteurs culturels et la société civile engagent le dialogue avec les entreprises, avec les approches entrepreneuriales. Et voilà, l'idée étant, si cette thématique retient l'intérêt d'une majorité d'entre vous, serait peut-être que ce soit le premier atelier d'une série, puisque c'est une réflexion qui, personnellement, me paraît extrêmement fondamentale. Voilà. Donc, je laisse la parole à nos deux co-animateurs, Jean-Marc Neveu et Anne Loussouarne.
Bonjour à tous, donc Jean-Marc Neveu, je suis un dirigeant de deux entreprises dans le bassin Châtel-Rodrée que j'ai repris il y a à peine 6 mois maintenant, qui travaillent dans le domaine de la plasturgie, l'injection plastique. Donc en gros, c'est on fabrique des pièces en plastique à partir de moules en métal ou en aluminium. Et l'idée, c'est on travaille notamment pour le domaine industriel, que ce soit l'aéronautique, le domaine aussi du matériel électrique ou gazier. Et puis j'ai une autre casquette. En fait, je suis ancien président de région du Centre des jeunes dirigeants. Le Centre des jeunes dirigeants, vous connaissez, non ? C'est a été créé en 1938 et en 1938 il y avait d'un côté donc le mouvement ouvrier et puis d'un côté les maîtres des forges, et l'idée c'était de dire déjà à l'époque comment on peut travailler ensemble à constituer une société ou une entreprise qui puisse concilier les aspirations de chacun. Voilà, donc je crois que ça peut être un bon démarrage de parler de ça en disant on est tous, et je pense qu'aujourd'hui, merci à Jackie et à toute l'équipe d'avoir préparé ça, de réfléchir un peu comment on peut, au XXIe siècle, continuer à vivre ensemble et à travailler ensemble dans chacun de nos domaines. Et puis, voilà, et on s'aperçoit, enfin, le point de départ, c'est que je pense, hein, la présentation est intéressante en préalable. Je le vois comme la contribution pourrait être une utopie, de dire voilà, l'utopie nous aide à réfléchir sur comment pouvoir inventer des nouveaux systèmes ou réfléchir à nos organisations pour travailler ensemble. L'entreprise aujourd'hui est en pleine mutation. Moi, je le vois au niveau de mes clients, hein, par exemple. On a un rapprochement évident entre le besoin des marchés qui est de plus en plus fluctuant et complètement imprévisible. Donc on se rapproche vers les besoins individuels de chaque individu et des organisations. Moi, je travaille dans l'industrie où on n'est pas du tout habitué à travailler sur l'individu, mais plutôt sur la production d'objets de masse. Donc voilà. Et comment pouvoir organiser nos entreprises pour répondre à ces besoins-là. Nos donneurs d'ordre, puisqu'on travaille avec des gros donneurs d'ordre, ont aujourd'hui beaucoup de mal à pouvoir, avec leur grosse organisation, travailler là-dessus. Mais ce qu'on essaye de mettre en place, nous, au niveau de nos petites PME, notamment au niveau du CJD, ce sont des expérimentations. On aime bien, nous, expérimenter. On n'est pas des théoriciens, mais plutôt des expérimentateurs. Comment on peut, avec toutes ces nouvelles tendances, mettre un petit peu de créativité dans nos entreprises pour justement réfléchir à ces notions de variabilité ou, on va dire, de personnalisation des produits industriels ou produits de consommation. Et là, on n'est pas du tout habitué à ça parce que ça pose des questions de savoir comment on peut s'organiser. Est-ce que les modèles sont rentables ? Est-ce que c'est pérennisable, et puis surtout, on n'est pas habitué à avoir de la créativité aux entreprises. On parle, je vous entendais mieux là. On part quand même d'un système où qui a été créé il y a un petit moment, où on découpait justement les tâches pour retirer la créativité au niveau des employés. Voilà. Donc on est dans un système où on a retiré un peu l'intelligence, on va dire, des individus pour le mettre au service du bureau des méthodes. C'est comme ça que ça s'est créé, ou des centres de recherche. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt, on essaie plutôt de rendre l'inverse en disant, ben voilà, comment on peut mettre de la créativité au niveau de chacun de l'organisation, on va dire, ou au niveau des individus, pour pouvoir répondre à ce besoin-là et transformer nos entreprises. Alors non pas pour répondre, pour essayer de répondre à ces besoins extrêmement particuliers des individus ou des donneurs d'ordre, mais aussi de pouvoir être agile, en fait, savoir pouvoir réagir rapidement dans ces organisations-là. Du coup, on se rapproche du monde, on va dire, artistique, c'est-à-dire qu'on fait concrètement intervenir, j'ai l'exemple d'une entreprise du CJD qui fait intervenir une peintre pour... pour créer dans l'entreprise, hein, c'est-à-dire que c'est l'artiste intervient pendant 2 jours et chacun des employés ou des collaborateurs s'exerce à la créativité qu'il a un peu en lui et à travers le résultat qui est donné de pouvoir l'utiliser en disant ben voilà on peut aussi sortir du cadre et imaginer qu'une entreprise peut être aussi réfléchir à son propre mode de fonctionnement, en fait, de faire une analogie entre la créativité de l'individu et repenser l'organisation, et puis dire que ça a toute sa place. Deuxième exemple concret, puisque j'ai fait intervenir Florent Blin, que je salue, dans mon entreprise, où nous on fabrique des objets, et on l'avait fait intervenir au niveau du CJD au congrès régional pour parler de l'art, et que la frontière entre l'art et puis le monde industriel n'est pas forcément si éloignée. Il avait cité l'exemple d'Andy Warhol, hein, c'est ça, où on fabriquait par quantité industrielle des œuvres d'art. Et bien, il est venu intervenir au niveau de l'entreprise parce que nous, on fabrique des objets et de remettre en contexte en fait la fabrication des objets, à savoir à travers leur fonction, on va dire, utilitaire, mais aujourd'hui de plus en plus métaphorique, culturel, social. Qu'est-ce qu'on imagine à travers les objets? Tout ça pour dire concrètement qu'on essaye d'imaginer des pistes pour repenser nos organisations, hein, et là-dessus on a besoin d'autres modèles, on a besoin d'historiens qui nous parlent un peu d'utopie, hein, je pense que c'est ça aussi l'intérêt. On a besoin aussi du monde culturel et artistique pour essayer de dire ben voilà, comment on peut imaginer différemment nos institutions et donner aussi l'idée un peu de redonner un peu de marge de manœuvre ou de marge de liberté aux individus dans les organisations. Et plus ça fonctionnera comme ça et plus on arrivera à avoir des modèles qui sont agiles et puis où les gens se sentent bien. Il ne suffit pas de faire des plans de com, mais simplement de dire, voilà, redonner un petit peu de sens, hein, à ce qu'on fait tous les jours dans l'entreprise. Et ça marche plutôt bien. J'avais la réflexion d'un grand donneur d'ordre. Alors, on n'avait pas changé grand-chose, hein. Moi, ça fait 6 mois que je n'ai pas révolutionné. Je ne suis pas révolutionnaire. On n'a pas révolutionné parce que je pense qu'il y a aussi la transmission est importante. Mais on avait changé un certain nombre de choses, hein, de petites choses, ranger un petit peu différemment, mettre des espaces de dialogue, voilà, on a créé quelque chose. On a fait intervenir Florent. Et le grand donneur en ordre a dit, oui, il y a quelque chose qui a changé. Il a du mal à mettre les mots dessus, mais c'est un ensemble de choses. Hein, c'est la complexité de l'entreprise. Hein. Mais il s'est aperçu qu'il y avait effectivement quelque chose là-dessus. Voilà pour la vision aujourd'hui de l'entreprise ou l'industrie 3.0. Je pense qu'il y a besoin de... Voilà, qui est en pleine mutation. Aujourd'hui, il y a plein d'expériences. Je pense notamment à l'holacratie, vous en parlez. Donc, voilà, mais c'est tous des questionnements qui sont, qui ont cours par rapport à repenser le modèle. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises industrielles ou les entreprises en général sont bien conscientes qu'elles doivent repenser leur modèle et qu'aujourd'hui, voilà, elles ont beaucoup de difficultés à repenser ce modèle-là puisque, en fait, elles n'ont pas les ressources en interne et puis elles n'ont pas habitué leurs gens à repenser leur modèle.
Bonjour, ça marche? Oui. Donc moi je suis Anne Lussorn, je dirige le pôle régional de musique actuelle de Poitou-Charentes, hein, qui a un réseau d'artistes mais aussi d'entreprises, je le dis à dessein, j'y reviendrai tout à l'heure. Un petit mot, bon, les acteurs du PRMA, ce sont principalement des associations à 60, enfin voilà, c'est moi qui fais le premier pourcentage, 70% d'associations. On est sur, donc je l'ai dit, des artistes, des producteurs, des diffuseurs, des lieux d'enseignement, un peu tous les maillons de la filière, encore un mot économique, musical. Le premier point commun, du coup, enfin je rebondis sur l'intervention de Jean-Marc, qui a beaucoup insisté sur la nécessité pour les entreprises de repenser leur modèle et leur système d'organisation. J'imagine que derrière, il y a toutes les logiques de responsabilité, finalement, sociale et environnementale, que je sens derrière ce discours. La question de la réorganisation des organisations, c'est aussi, c'est un point commun aussi avec les acteurs de la culture. Alors sans doute pour d'autres raisons, puisque la question du sens, c'est celle qui prévaut peut-être pour les individus qui composent vos entreprises. Peut-être que la question du sens est plus partagée dans les structures artistiques et culturelles. Alors là, je suis partie en live, en fait. C'est pas du tout ce que je voulais dire. En fait, je vais résumer mon propos. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Alors là, je suis en... Voilà. C'était pas prévu. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu de la créativité vaut aussi pour les structures et les artistes du monde culturel et créatif. Voilà, c'est ça. C'est que nous aussi, on doit se poser des questions sur nos modèles et être en capacité de réinventer nos modèles. Donc c'est en ce sens que je voulais dire qu'on avait un point commun avec, en tout cas, le point de vue de l'entrepreneur qui est à ma droite. C'est cet enjeu qui est très, très fort pour nous. Alors sans doute pour d'autres raisons. La question du... cet enjeu d'innovation pour nous doit aussi passer justement par l'ouverture sur d'autres modèles et d'où cette rencontre partenariale justement avec le monde de l'entreprise qui nous semble aussi important de notre point de vue. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être à la base des accointances et des enjeux peut-être similaires pour construire ensemble des partenariats. Donc souvent dans la culture, l'entrée entreprise, partenariat entreprise va se résumer à du mécénat, j'ai envie de dire. Enfin, c'est souvent l'entrée qui est privilégiée, que ce soit par les institutions, même par les professionnels eux-mêmes. Et je pense que ce serait une erreur C'est une possibilité, c'est une hypothèse, mais je pense que ça ne doit pas être l'entrée principale pour entrer en dialogue justement avec les entreprises. Puisque comme le disait Jean-Marc, l'entreprise cherche, ou en tout cas certaines d'entre elles cherchent des alternatives aussi, enfin, à enrichir ses pratiques, à trouver des nouveaux modèles. Et peut-être qu'au sein du secteur de la culture et avec les artistes, on est en capacité de mettre au pot commun des compétences qu'on n'a pas formalisées, qu'on a peut-être mal identifiées, mais qui peuvent aussi contribuer à la rénovation des modèles entrepreneuriaux. Après, je rebondirai sur l'intitulé de l'atelier. Je pense que pour Jackie, c'était peut-être une petite provocation, mais... Tu opposais entreprise ou entrepreneur et non entrepreneur. Donc évidemment, les acteurs que je représente ici vont aussi se considérer comme des entrepreneurs, même si on est sur des formes d'entreprise particulières, c'est-à-dire qu'on est sur de l'entreprise collective, souvent, je l'ai dit, qui s'incarne par des collectifs d'individus qui, au sein d'une association, décident de réunir leurs énergies, leurs envies, leurs compétences pour développer un projet. Donc effectivement, on est sur de l'entrepreneuriat, on va dire, collectif, avec des logiques de non-redistribution des bénéfices, donc sur la notion de non-lucrativité, etc. Donc effectivement, mais cette distinction ne doit pas faire des artistes et des acteurs de la culture en général des gens qui ne sont pas dans des logiques d'entreprise, aussi singulières soient-elles, au regard même des productions et de la nature des productions, qui sont symboliques, qui sont artistiques, et qui évidemment, pour certaines d'entre elles, et c'est tant mieux, c'est ce qu'on défend aussi, ne sont pas dictées par le marché. Enfin, voilà. Donc, mais si on enlève ça, voilà, on est aussi dans une logique d'entreprise. Et nous, au niveau du PRMA, le gros travail qu'on fait depuis 3 ans, c'est justement cette prise de conscience des acteurs de la culture, d'être des acteurs du territoire au même titre que les autres, et d'être dans une transversalité, de sortir justement de cette spécificité culturelle auquel le ministère de la Culture, d'ailleurs, et c'est tant mieux, a contribué, hein, dans des logiques évidemment de reconnaissance, de soutien, mais qui du coup a enfermé peut-être l'acteur culturel et l'artiste dans une bulle. Voilà, l'idée, c'est, en tout cas, c'est le travail qu'on essaie de mener, c'est de décloisonner un peu cette bulle et de faire en sorte que ce dialogue, justement, avec les autres acteurs, les autres parties prenantes du territoire, que ce soit des acteurs publics, mais des acteurs privés, et privés aussi, quelles que soient les filières, aussi bien l'insertion, l'environnement, le numérique, que ce dialogue puisse se renforcer et que les acteurs de la culture soient ancrés de manière plus transversale dans les territoires. Et pour nous, nous, on est convaincus que la mise en réseau, le travail de réseau, est un levier justement de développement pour chacun. Enfin, je pense que Jean-Marc, en tant que avec toutes ses activités, on va dire justement de président de réseau des jeunes entrepreneurs, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi dans cette logique-là, de privilégier la mise en réseau comme un facteur de développement aussi individuel pour les structures qui le composent. Puisque je pense que la... Enfin, je pense pas. Enfin, si, je pense. Tiens, je pense. Je pense effectivement que notre avenir passe par ce travail de coopération renforcée entre les acteurs de même filière, mais aussi avec d'autres acteurs, d'autres filières, puisque c'est comme ça, justement, que la créativité peut renaître ou peut naître, en imaginant, embrassant des idées, des mondes différents, des technologies différentes. Donc pour nous, c'est un enjeu très très fort de développement, de renouvellement, d'imaginaire aussi. Enfin, voilà.
Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Yann. C'est vraiment, on est là au cœur du sujet. On est vraiment dans les représentations des organisations où chacun pense que on est différent pour exister. C'est bien, mais aussi c'est aussi des freins pour pouvoir construire. Et l'entrepreneuriat culturel, moi, je ne vois pas de différence avec l'entrepreneuriat économique ou l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et pourquoi ça ? Parce que je crois que ce qui sous-tend, c'est ce que je disais en préalable au niveau du CJD, on a une vision de l'entrepreneuriat qui est une contribution à la fois, une entreprise n'est une organisation n'est viable que si elle contribue de façon économique à son territoire, socialement à son territoire, d'un point de vue environnemental et sociétal. Une entreprise ne peut pas être ex nihilo. Et nous, on pense, notre vision de l'entrepreneuriat, c'est une vision qui est plus large que celle qu'on a. Et du coup, on arrive à faire rentrer un peu tout le monde si on a ces visions-là ou cette valeur-là hein, de contribution générale, à la fois économique, parce qu'on est, on est aussi dans un monde économique, parce qu'il n'y a pas de modèle. Et on voit bien que si... moi, j'ai une anecdote à ce sujet-là. J'avais été invité à une association, une grosse association étudiante qui m'avait invité pour, ça, pour dire au secours, il n'y a plus de subventions d'État, comment on fait ? Il y a eu une réponse, et on tape n'importe quoi sur les appels d'offres pour pouvoir récupérer des subventions. Voilà. Donc ça peut aussi être un dérive de se couper complètement du monde économique et d'autres travers. Quoi, de dire, et je pense que donc, il y a cette problématique de l'économie, il y a, le problème, il y a la problématique de socialement, c'est comment on se comporte avec les collaborateurs et puis comment on, avec ses membres. Environnementalement, ça me paraît une évidence. Et puis sociétalement, c'est-à-dire que comment on contribue à ce que sur un territoire, on ne vienne pas l'assécher, mais plutôt... faire perdurer un peu. Alors nous, j'avais imaginé, enfin, il y a ces notions-là dans l'économie qui est le capital immatériel du territoire. Voilà. En gros, comment on peut enrichir ce capital immatériel, sachant que s'il disparaît, il peut disparaître, eh ben, à la fois les entreprises, mais l'association culturelle, et même les institutions vont disparaître. À mon avis, la vraie difficulté, c'est comment imaginer ces dialogues-là, alors que tout passait par les institutionnels, comment imaginer ces dialogues-là hors des institutions. Et c'est un petit peu l'idée qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est comment se passer d'institutions pour faire vivre tous nos réseaux, enfin, le dialogue territorial, mais sans institutions. Bon, voilà, je pense que c'est un modèle à inventer. Peut-être que l'utopie permettra d'y répondre ou de réfléchir un peu là-dessus.
Eh bien, je vous remercie, vous restez... Et nous accueillons Laetitia Chieti du Centre socioculturel du NEOF, qui va nous faire part de cette expérience terrain.
Alors, bonjour à tous. Je représente aujourd'hui donc mon directeur qui n'a pas pu venir. Et plus que moi, je suis directrice de l'école de musique du Centre social et culturel du NEOF. Mais là, pour le coup, je vais vous parler un peu des liens qui ont pu être créés déjà entre des entreprises et des jeunes de notre quartier. Alors, pour bien comprendre un peu le contexte, je vais déjà vous présenter un peu le quartier du NEOF, qui est un quartier en périphérie de la ville de Strasbourg. Alors, c'est un quartier qui a fait partie des premières zones de sécurité prioritaire mises en place par François Hollande il y a à peu près 2 ans. Alors, il concentre à peu près toutes les difficultés enfin de précarité qu'on peut trouver en général, donc un taux de pauvreté, l'analphabétisme, la délinquance, mais aussi un enclavement géographique, parce qu'il faut savoir que même si maintenant, aujourd'hui, le quartier a un peu changé, évolué grâce à un grand projet de ville, il y a à peu près 3 ans encore, ni tram, ni réseau vraiment de bus, tout ça n'était raccordé avec l'ensemble de la ville. Donc c'est quand même à peu près 12 000 personnes enclavées dans un territoire qui cumulent les handicaps sociaux, économiques, etc. Et donc autour de ça, on a un vrai travail donc déjà d'estime de soi, d'inclusion, d'ouverture vers l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est vraiment vers la ville de Strasbourg. Alors, surtout dans le domaine de l'insertion professionnelle, il faut savoir que seulement à peu près 40% des jeunes de 16 à 24 ans continuent l'école, le plus souvent en parcours court, en BEP ou CAP. D'ailleurs, sur l'ensemble, il y a 7000 jeunes qui n'ont absolument rien et 300 qui continuent jusqu'au bac. Alors le bac devient un peu une finalité en soi parce qu'ils ont encore espoir déjà d'y arriver, mais manquent encore d'ambition pour se dire qu'ils peuvent encore réussir un peu plus et continuer des études plus poussées. Et seulement 300 arrivent à un niveau de bac plus 2. Alors, Pour résumer aussi, il y a 52 nationalités différentes qui cohabitent dans le quartier, dont une forte propension de gens du voyage. Donc on doit faire avec toute une multitude culturelle, avec leurs propres codes, leurs propres règles, et voilà, un peu pour situer tout ça. La démarche du CSC est un peu spéciale depuis le départ, c'est de faire tomber les barrières et les cloisons. Alors déjà à l'intérieur du quartier, parce que cet enclavement a pour effet sur les jeunes d'avoir une peur certaine, alors on parle beaucoup des jeunes, mais des familles en général, d'avoir une peur certaine de sortir du quartier, de rencontrer d'autres gens du quartier, et que du coup les préjugés qu'on peut avoir sur ce type de quartier populaire à l'intérieur de la ville est totalement répercuté de même façon de l'intérieur du quartier. C'est-à-dire que forcément, les gens sont mauvais, sont jugeants, sont persécuteurs. Enfin, il y a un vrai fatalisme de la part des familles ou des gens qui vivent à l'intérieur du quartier. Et c'est d'autant plus marqué sur le monde du travail et de l'entreprise. C'est pour ça que notre directeur a fait la rencontre d'un membre du CJD et qui aussi, pour le coup, fait partie du MEDEF, qui est venu s'installer donc dans le quartier, en zone franche, avec son entreprise, et qui, du coup, est devenu le président du Centre social et culturel. Alors, ça a été un peu une révolution pour tout le monde, hein, que ce soit pour les acteurs sur le quartier, les acteurs sociaux, où il y a un peu... En faisant un peu de clichés, le grand méchant qui détient tout l'argent, qui ne donne pas de travail aux habitants, qui arrive et qui va certainement vouloir encore grignoter. Enfin, il ne peut pas être dans une démarche sincère et tout ça. Et donc, c'est un vrai travail qu'ils ont dû mener, en tout cas, eux, pour montrer que le regard que les entrepreneurs pouvaient avoir sur les associations, c'est-à-dire qu'on pouvait être parfois, nous... un manque de professionnalisme, voire un peu brouillon quelquefois sur nos actions ou nos activités, et nous de montrer que finalement les entreprises sont aussi des gens, qu'on peut humaniser le monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai pas l'habitude de le dire, ce mot. et de montrer qu'en fait, forcément, une rencontre peut être faite et facilitée. Alors, c'est d'autant plus intéressant pour nous que depuis que le président est arrivé, on a, aux membres du conseil d'administration du Centre social et culturel, d'autres entrepreneurs, et que le directeur lui-même est devenu membre du CJD et donc trésorier pour je pense que c'est par zone, Alsace, section Alsace. Voilà. Alors... De là, la rencontre a pu être établie avec plusieurs jeunes, donc à savoir qu'il y a une vraie volonté d'ouverture. Du coup, les réunions plénières qui se passent pour la section Alsace sont régulièrement ouvertes à des jeunes du quartier qui peuvent y participer, rencontrer, discuter aussi avec les entrepreneurs et vice-versa, ce qui permet d'à la fois prendre conscience de ce qui est amélioré des deux côtés, c'est-à-dire pour les entrepreneurs de parfois passer outre tout ce qui découle d'une culture de quartier, c'est-à-dire forcément des fois une attitude qui n'est pas forcément la plus adéquate, un vocabulaire, une façon d'être, une façon de s'exprimer, même une façon de s'habiller, enfin tout ce qui fait des jeunes de quartier un peu le stéréotype. Et de là sont nés plusieurs projets, donc de choses concrètes dont le dernier a été un job day. Donc le job day, c'était une vingtaine d'entreprises et de travail temporaire qui sont venues dans le quartier avec une vraie offre de travail, c'est-à-dire que sur une base de speed dating un peu et de rencontres. Les jeunes pouvaient rencontrer tour à tour à plusieurs tables des chefs d'entreprise ou en tout cas des personnes issues du monde intérimaire, en se disant que parce que déjà lutter contre le fatalisme, de toute façon on va pas postuler parce que c'est pas pour nous, il y a jamais de travail pour nous parce qu'on vient de là, enfin il y a une discrimination géographique, une discrimination aussi de nom, une stigmatisation de l'étranger, enfin qui est vraiment vécue par les jeunes. C'était une manière de leur dire aussi, là pour le coup vous pouvez y aller, il y a des postes, tiens qu'à vous de vous mettre en situation et pouvoir y accéder. Si ça réussit pas forcément, c'est aussi une remise propre en question et pas forcément de stigmatisation, voilà. Et aussi dans le sens où les entreprises du coup n'avaient ni CV, ne savaient pas vraiment, connaissaient pas la situation, et avec un regard totalement nouveau porté par les personnes qui arrivaient, pouvaient juger juste à la seule motivation ou en tout cas représentation ou de la personne en face, pouvait juger si oui ou non on pouvait lui accorder une chance. Alors c'est pas, y a évidemment après dans le choix qui ont été faits des entreprises un accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vont quand même coacher et voir de près ces jeunes-là, les accompagner dans leur retour à l'emploi qui n'est pas forcément facile. Parce qu'il ne suffit pas des fois de trouver un emploi, il faut aussi le garder et en comprendre les règles et jouer le jeu jusqu'au bout. Alors on a eu à peu près 100 jeunes de rentrer sur les listings, ce qui est vraiment une réussite pour tout le monde. On a aussi une autre action qui avait été menée qui s'appelle Job Zone, et où 50 entreprises proposaient 500 emplois dans le quartier du Neuhof. Alors pour le coup c'était ouvert à toute la ville et c'était aussi un moyen de montrer donc à la fois les entreprises pouvaient se déplacer dans un quartier populaire ou difficile, mais aussi que la ville de Strasbourg fasse le pas elle-même de venir dans ce quartier-là pour chercher du travail. Donc il y avait dans l'idée de faire venir finalement des personnes de l'intérieur entre guillemets vers les quartiers populaires trouver du travail, ce qui était vraiment favorisait déjà une mixité mais permettait aux jeunes ou aux personnes qui postulaient de se rendre compte que le chômage c'est pas un fait qui touche que les quartiers, qu'il y a aussi des personnes en ville qui sont même dans des problématiques sociales, économiques, etc. Voilà. Alors j'ai encore un autre exemple qui s'appelle l'opération Rêve et qui favorise en tout cas les rencontres entre voisins. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on a un port autonome qui est juste à côté du quartier. Et donc la directive est de dire vous avez du travail, pourquoi est-ce que vous cherchez des gens qui sont à des kilomètres à la ronde alors que à côté de chez vous vous avez des jeunes qui cherchent beaucoup de travail et que dont personne ne pense, voilà. Alors ça c'est quelque chose qui est en train d'être totalement créé sur l'ensemble des associations, des entreprises qui sont sur le port autonome. Il y en a à peu près 5 ou 6 qui jouent le jeu de ce voisinage, voilà. Mais c'est quelque chose qui est en tout cas en train de faire son chemin et qui, on l'espère, va permettre de pouvoir accéder plus facilement, faire accéder les jeunes plus facilement à l'emploi, voilà. Alors, il m'a un peu missionné pour venir parler de ces relations qui ont déjà été établies et tout ça, mais pour reprendre un peu du coup le discours des deux intervenants, il y a parmi les rencontres qui ont été faites entre les jeunes du CC et du CJD, il y a eu aussi une journée où la réunion s'est faite avec un professionnel du théâtre où chacun a pu aussi se mettre en scène. Jouer des scénettes de rencontres ou de simulations d'entretiens professionnels qui ont été après retransmises sur scène et qui a été très valorisé parce que finalement, après, dans la culture en général, qu'on soit chef d'entreprise, jeune de quartier ou peu importe la provenance sociale, devant le fait de jouer du théâtre ou quoi que ce soit, ou qui demande une compétence particulière, on est quand même assez égaux et il n'y a plus de personnes qui sont ou plus diplômées ou plus, en tout cas mieux placées. Il n'y a plus de hiérarchie spéciale, tout le monde est un peu au même stade de. Et ça permet aussi, par le biais surtout de l'humour ou de discours particuliers, de soulever des fois plus de points qu'on peut en rencontrer dans des réunions ou dans des conférences qui sont faites explicitement pour ça. Voilà. Alors, je reviendrai aussi sur ce qu'a dit madame par rapport au... C'est vrai que en tout cas, dans l'activité culturelle, le monde de l'entreprise est souvent perçu comme un mécénat, malheureusement. Enfin, c'est une manière de concrétiser des projets, ou en tout cas, c'est une manière supplémentaire de pouvoir trouver de l'argent. Alors, je peux parler aussi peut-être d'un cas précis où donc l'école de musique avait déposé un projet qui a été financé par une fondation, alors qui est la fondation Cronenbourg à Strasbourg, mais qui pour le coup a été plus qu'une somme d'argent. On a eu la chance d'être régi par une marraine et une équipe qui représente la fondation, qui sont venus régulièrement tout au long de l'année, donc déjà veiller au bon fonctionnement du projet, mais surtout rencontrer les acteurs de ce projet-là, rencontrer les élèves qui, pour le coup, étaient une chorale de femmes manouches qui sont totalement déconnectées du monde de l'emploi, du monde de l'entreprise, déjà par le fait de rester à la maison où il y a vraiment quelque chose de culturel dans la mixité, de se dire qu'une femme peut avoir un travail ou qu'une femme peut faire mieux que son mari. En tant que directrice, j'ai souvent le regard assez surpris, voire choqué, de se dire qu'une femme peut prendre des décisions à la place des hommes. Enfin, c'est quelque chose qui est encore vraiment ancré sur le quartier. Et le fait de rencontrer donc ce comité de pilotage un peu marraine de la fondation a été vraiment un chouette moment pour tout le monde et a permis à la fois de les valoriser, de se sentir un peu importante en se disant que le monde de l'entreprise est là pour les voir chanter parce qu'ils croient en ce qu'elles font. Et je pense que ça vaut quelquefois plus que tous les discours qu'on peut avoir au quotidien sur l'estime et toutes ces choses. Et voilà. Après, on a aussi des relations. Donc, on a travaillé plus de 3-4 fois en collaboration avec les membres du Rotary Club de Strasbourg, qui est aussi issu beaucoup du monde de l'entreprise et qui vient régulièrement rencontrer les élèves dans des échanges. Plus qu'un concert, alors on va participer à une cause spécifique, voilà. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe vraiment avant et après, avant dans l'accueil, tout ça, mais surtout après dans les échanges, de voir deux mondes qui sont absolument pas censés se rencontrer ou qui du moins sont pas la rencontre n'est pas facilitée. Voilà, c'est quelques exemples qui démontrent que... Enfin, je reste totalement utopiste, que tout le monde peut se rencontrer, que quel que soit le caractère ou la provenance sociale, la manière de s'exprimer aussi, j'ai assisté à des scènes où c'est vrai qu'il y a quelques élèves de l'école parlent... Enfin, il faut s'accrocher quand même quelquefois pour pouvoir entendre. En même temps, c'est aussi un public qui ne prend pas de pincettes, donc c'est toujours aussi difficile parce que ça crée forcément des situations de confrontation ou quoi que ce soit, mais finalement, on ressort plutôt tous grandis de la confrontation. Et voilà, donc c'est des expériences plutôt positives pour ma part.
Merci beaucoup, Laetitia Chieti, pour la présentation et ces exemples. mis en œuvre.
Est-ce qu'il y a des questions quelques...
Alors, y a-t-il des questions sur cette dernière intervention?
Oui, plutôt.
Bonjour, François Maton. Donc, je dirige une société de communication qui s'appelle le réseau .org. C'est simplement un point qui peut sembler de détail, mais qui, à mon avis, ne l'est pas. Vous disiez tout à l'heure que sur le Job Day, il y avait 100 jeunes qui étaient inscrits sur les listings. Est-ce que vous avez la statistique sur ceux qui ont un emploi et sur la pérennité de ces emplois?
Alors, le Job Day a eu lieu il y a 3 semaines. Donc, pour l'instant, je n'ai pas du tout de retour sur... finalement. Je sais déjà que, en tout cas, sur les 100 jeunes inscrits sur les listings, il y avait quand même... déjà 300 jeunes qui étaient censés venir et qui se sont pas déplacés parce que c'était les jeunes visés, alors c'est ce qu'on appelle un peu sur le quartier les perdus de vue, c'est-à-dire ceux qui sont ni inscrits à l'école, ni inscrits ni à la NPE, ni inscrits nulle part. Donc il y a quand même déjà toute une démarche à faire juste pour les faire venir dans une institution et de retour à l'emploi. Et à voir maintenant comment ça va se profiler. Par contre, ils sont, comme je disais, vraiment dans une démarche d'accompagnement et de coaching de la part des entreprises. Ils ne sont pas lâchés maintenant. Il y a la mission locale aussi qui est derrière. Et voilà, en espérant que ça puisse...
Ça serait bien que vous communiquiez les résultats.
Oui, moi je pourrais suivre... Pareil, c'est vrai, j'ai parlé du Job Zone où il y a eu 60 embauches aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 2 ans. Je pense qu'il y a eu pas mal de turnover depuis. Au moins une vingtaine de personnes, je pense, ont totalement décroché. Voilà. On ne peut pas toujours être... c'est pas mal, oui.
Bonjour, je suis Bruno Hubert. J'ai mon activité de conseil en développement des ressources humaines, mais je me retrouve ici avec une casquette prospective. Et puis, je retrouve de mes antériorités, et je vais faire le lien avec beaucoup de choses. J'étais au CJD de 87 à 95, à une période où on a été une petite bande à mettre sur les fonds baptismaux un concept qu'on avait appelé l'entreprise citoyenne. L'entreprise citoyenne, en 92, vous reprenez les titres dans les Échos, le CNPF de l'époque nous a traités, dans le texte, de petits connards. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont leur RSE. Donc l'IDEA fait son chemin, et je prends l'exemple parce que en prospective, on s'inscrit sur des temps longs, et on agit, on se met en action sur le quotidien. À côté de ça, j'étais après délégué national à l'insertion par l'économique. Je suis resté dans ce contexte-là parce que j'ai, à l'époque, toujours au début des années 90, aidé une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le Relais, qui collecte des vieux textiles et qui aujourd'hui fait travailler en France en salariat 1800 personnes avec des déchets et des gens qui étaient complètement exclus, avec une échelle de salaire à l'intérieur de l'entreprise de 1 à 3. Et puis, j'ai aussi été un des fondateurs de la Fondation Agir contre l'exclusion. Ça existe à Strasbourg, je vous invite à vous mettre en contact, parce que l'idée, ce sont des clubs d'entreprise qui prennent conscience qu'il y a des publics qui sont en exclusion, en discrimination, et aujourd'hui en pauvreté, et on les ramène vers l'économique. Moi personnellement, et puis d'autres, on pense que c'est l'économique qui permet de créer de la richesse, qui permet, à travers la création de richesse, de lever de l'impôt, et l'impôt permet à l'État d'avoir des actions. Mais tout ça, la problématique, et j'en reviens au propos introductif, c'est que on est venu à des cloisonnements, on fonctionne en silo et les différents mondes ne se parlent plus ou se parlent très peu. Alors heureusement, il y a des exemples et qui montrent que la problématique est vraie et qu'elle a ses fruits. Et donc moi, j'insiste sur le fait qu'il faut toujours travailler avec une vision de moyen à long terme, avec une vision systémique des choses. Et pour parler de l'entreprise et du lien avec la culture, mais pourquoi opposer les deux ? Si vous êtes un chef d'entreprise, que vous n'avez aucune culture, vous ne pouvez pas avancer. Si vous faites dans votre esprit fi du fait que vos collaborateurs puissent avoir une culture, et ce n'est pas une culture livresque, là, ils peuvent avoir une vraie culture de créativité. Quand vous libérez ça dans l'entreprise et que vous dites au simple opérateur, mais que fais-tu ? Comment le fais-tu ? Et pourquoi le fais-tu ? Et avec quelles compétences ? Et que vous lui faites découvrir qu'il a des compétences. Mais c'est terrible. Vous démultipliez les choses. Alors, voilà, moi, j'invite à ça. Et je vous remercie des propos. J'aurais une question. C'est, sur vos territoires, comment vous envisagez amplifier cela ? Parce qu'il faut l'amplifier aujourd'hui. Il y a une relative urgence au phénomène.
Sur le territoire, c'est le quartier ou Strasbourg non, sur le quartier. Alors le...
Avec FACE sur Lille, parce que j'ai oublié de dire, j'étais président, je suis toujours président de FACE à Lille.
Oui.
On est parti des quartiers sud, le nord, oui. Du Bois, il y a 20 ans. Après, c'était la ville de Lille. Aujourd'hui, c'est l'agglomération de Lille, c'est 1,2 million d'habitants.
Oui.
Et sur 1,2 million d'habitants, on arrive à suivre 8000 familles, c'est-à-dire 24 000 habitants. Aujourd'hui, ce sont des communautés de communes dans la région ici.
Alors, en tout cas, je ne peux pas parler à l'échelle de la ville. Ce que je peux présenter, c'est ce qui est en construction aujourd'hui. C'est on départ du CSC, mais avec un multipartenariat, donc ce qu'on appelle pour l'instant un espace de convergence. Donc c'est un dossier qui a été déposé, à voir s'il va être suivi et financé, ou en tout cas, c'est qui démontre que on peut réussir à faire... que la réussite d'une personne professionnellement... la finalité de plusieurs parcours. On peut avoir un parcours... parce qu'aujourd'hui, on peut faire des chantiers éducatifs de semaines, on peut faire des stages en entreprise de 10 jours ou ce genre de choses, mais que finalement, c'est des choses très ponctuelles, alors qu'inscrire un individu dans un parcours qui regrouperait tout, que ce soit donc dans l'insertion dans l'entreprise, dans la mission locale, dans des projets associatifs, dans des projets du CSC ou donc dans de l'accompagnement individuel et de la prévention, c'est de permettre à des jeunes de rentrer dans ce circuit qui à la fois décloisonne, se dire on vient pas d'un milieu associé, on peut pas réussir si on vient que d'un seul milieu, mais que en passant justement, en multipliant les expériences, on ressort plus riche. Et que la construction d'un réseau aussi d'interlocuteurs et de favoriser la rencontre. Il y a certaines fois des rencontres qui vont marquer les individus plus qu'un parcours en particulier et qui vont leur permettre de grandir, en tout cas de croire de nouveau en certaines choses. Et de casser un peu le... Je ne sais pas si c'est propre juste à la ville ou en tout cas un cloisonnement qui a été fait entre les associations ou les entreprises, la mission locale ou par souci de financement. Chacun a l'impression de s'approprier une certaine catégorie de la population pour justifier de son activité, alors qu'on pourrait partager chacun nos publics et justifier ensemble d'une activité commune. Voilà. Donc cet espace de convergence qui devrait avoir lieu sur le Neuf et en pourparler en ce moment pour voir si justement sa faisabilité, pour voir si la ville y croit en tout cas, et pour l'excentrer après peut-être ailleurs dans les quartiers de Strasbourg. Je ne sais pas si j'ai...
Toutes les expériences.
Exact. Oui. Oui, voilà.
Bonjour, je suis Agnès John de l'association Fanden Espoir. Donc j'avais une question à poser à M. Neveu sur son territoire Châtel-Rodet. Vous nous parliez tout à l'heure de votre expérience dans votre entreprise et de la façon d'agencer et de donner un autre esprit pour le personnel de votre entreprise et qu'il y avait du changement. Que la personne qui vous a fait la remarque en disant qu'il y avait quelque chose de changé. Vous êtes dans, la plupart du temps dans des espaces robotisés. Vous utilisez ou vous employez du personnel jeune. Ces jeunes, moi, je pense qu'ils s'inspirent beaucoup des innovations. Ils ont beaucoup d'utopie à utiliser ce qui existe ou avoir beaucoup d'ingéniosité à inventer. Est-ce que dans les entreprises que vous avez, est-ce que voilà ma question est-ce que vous n'êtes pas dans un espace où cette créativité va se perdre dans ce monde de robotique? Voilà, c'est
on prend peut-être.
Oui, vas-y, dis-moi.
Non, je voulais prendre une autre question, mais vas-y, réponds, elle est très précise.
Ben, j'espère pas. Merci pour votre question, madame. Non, j'espère pas que la créativité va se perdre là-dedans. Je crois sur le présupposé qu'on a tous cette créativité en nous. Hein. Voilà. Après, moi, ce que j'essaye simplement, c'est de redonner les conditions nécessaires pour qu'elle puisse s'exprimer. Après qu'elle soit contributive à l'activité de l'entreprise, c'est encore mieux, mais l'idée c'est de permettre à ce lien de confiance, en fait, hein, c'est-à-dire redonner un peu d'autonomie ou de marge de manœuvre aux jeunes, notamment, ou aux moins jeunes, pour qu'ils puissent exprimer un petit peu ce pourquoi ils viennent tous les jours et à ce à quoi ils croient. Et je crois que les jeunes ont peut-être cet avantage sur les anciennes générations où ils clivent moins, hein, ils font moins de distinction entre le monde professionnel et le monde personnel. Après, voilà, eux, c'est peut-être plus compliqué pour eux, mais au moins, ils veulent retrouver un peu cet espace créatif en disant, bah voilà, moi, je suis là. C'est peut-être intéressant aussi de faire le lien avec les activités culturelles où on est là pour un projet donné et puis on est capable de repartir. On critique souvent les gens en disant qu'ils sont pas stables, etc. Mais je pense que le modèle d'organisation aujourd'hui, c'est un modèle agile et on est là pour une saison, un peu comme un championnat sportif. C'était l'entraîneur du Poitiers de basket qui disait ça. Moi, je suis constamment en recrutement parce que les jeunes viennent faire, les sportifs ils viennent faire une saison. Voilà, ça leur met des points dans leur CV et puis après, ils repartent pour une autre chose. Et je crois que les entreprises ou les organisations doivent être capables de permettre de libérer tout le talent. C'est ce dialogue en fait entre la performance ou la créativité de l'individu et le sens collectif qu'il faut pas perdre de vue. Et c'est c'est comment on peut permettre les deux sans qu'il y ait de dérive, que ce soit que l'individu qui en prenne part ou que le collectif qui dévie le sens du rôle de l'individu dans l'organisation.
Peut-être une dernière question avant de passer au prochain. Je te laisse après.
Une question plus. Patrick Tréguer, je suis de l'espace Mendès France. Une petite question pour Anne. On a évoqué donc le réseau. Hein, je pense que c'est la base de ton travail de mise en réseau ou de favoriser le réseau de façon naturelle. Je voudrais plus interroger, et je pense que ça s'adresse à l'ensemble des interlocuteurs qui sont présents à cette table, sur la question des coopératives, c'est-à-dire le co-travail ensemble, co-construction, enfin tout ce qui est autour de... ce qui me semble étonnant, c'est que il y a des mouvements qui ont été lancés depuis longtemps au Canada, enfin plus particulièrement au Québec. Je cite l'exemple de Méduse qui existe depuis 1995, qui est une coopérative culturelle. Enfin, pour être précis, je crois que c'est une coopérative de producteurs et de diffuseurs culturels. Il existe en France quelques exemples assez rares, enfin, à ma connaissance, hein, après peut-être à vérifier, de coopératives artistiques. Et je fais bien la différence entre coopératives artistiques et culturelles. Et il me semble qu'à l'intérieur, quand on observe précisément, c'est aussi des questions de gouvernance. On n'a pas beaucoup parlé de gouvernance qui se pose à l'intérieur de ces structures, qui, je pense, pose aussi la question du rapport entre peut-être ce que Pierre Lévy appelait intelligence collective, parce que ce mot n'a pas été encore lancé sur le débat. Comment, par le biais, par exemple, d'un pôle régional comme celui des musiques actuelles, tu abordes ou vous abordez ces questions de mise en réseau et de structuration coopérative, qui est une autre forme d'entreprise et peut-être plus adaptée. Alors quand je dis adaptée, ce n'est pas un jugement, c'est aussi la problématique de la formation et de la compréhension de ces systèmes qui échappent parfois peut-être à des difficultés liées à l'individualisme artistique, mais qui est inhérent aussi à la façon de travailler et aussi la notion de collectif.
Je vais commencer sur la question de la gouvernance. Effectivement, dès lors qu'on parle de coopération, on est au-delà du partenariat, on est dans du collectif. Et chacun est partie prenante du projet, de l'action, et ça pose la question effectivement de sa gouvernance et de la décision, enfin, je veux dire de la co-construction, ce que tu appelles la co-construction. Je réponds là-dessus en disant que je profite de ton intervention pour redire le préalable, en fait, enfin, en tout cas la définition que nous, alors bon, je ne suis pas du tout théoricienne, hein, on est bien d'accord, mais l'idée qu'on se donne de la coopération, c'est bien de travailler à plusieurs et que chacun contribue au pilotage du projet en termes de gouvernance et aussi, comme tu le dis, en termes, pourquoi pas, de co-investissement. Enfin, et c'est là où on retrouve les logiques de coopérative. C'est vrai que les coopératives, enfin le modèle coopératif, on en connaît quelques-uns sur notre région, mais c'est pas forcément paradoxalement, c'est pas un modèle qui s'est encore beaucoup développé, même s'il est en même si c'est, on va dire qu'on progresse là-dessus, que ce soit, je peux en citer quelques-uns, tu les connais très très bien, mais que ce soit la coopérative d'activité d'emploi qui vient de se créer aux usines nouvelles, ou la société coopérative d'intérêt collectif Cristal Production à La Rochelle. Effectivement, ce sont des fers de lance un peu en région sur la question de la coopération culturelle. Ce sont des modèles, comme tu dis, qui sont peut-être pas encore appropriés par les acteurs, qui sont peut-être pas encore bien connus. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de réinventer aussi nos propres modèles. Et je pense que pour pas mal de projets, ça pourrait être effectivement des manières de faire assez légitimes et pertinentes. C'était quoi ta question, Patrick ? Gouvernance. Alors, juste sur la question de la gouvernance, peut-être. Oui. Oui. Ouais. Alors, effectivement, je te rejoins sur le Québec et sur cette culture, finalement, entrepreneuriale qui se transforme assez facilement sous forme coopérative. Hein. J'avais même rencontré des musiciens à Montréal qui s'étaient organisés pour racheter un bâtiment, leur propre lieu de production, avec un ticket d'entrée qui était pas négligeable. Hein, je crois que c'était 5 000 $. Enfin, tu vois, il y a aussi des logiques économiques derrière. Est-ce que c'est des différences aussi culturelles d'entreprise, enfin de culture d'entreprise, je ne sais pas. Après, je pense que sur les deux exemples, que ce soit Méduse que tu as cité à Québec et c'est le Symphonique, je crois, à Montréal. Il y a eu aussi des politiques incitatives de la part des villes. Enfin, les deux projets, en fait, que je cite, qu'on cite, c'est aussi autour d'un bâtiment et du lieu de production. Et c'était l'envie aussi de la collectivité ou des collectivités de ne pas laisser ces bâtiments sur le marché, pas concurrentiel, mais spéculatif. Donc il y a eu aussi une volonté forte des collectivités locales d'accompagner aussi ces démarches. Voilà. Après, je n'ai pas plus d'explications à mon niveau. Sur la question de la gouvernance, j'en profite pour citer une expérience qu'on est en train de mener au niveau du PRMA. Depuis un peu plus de presque un an, en fait, on a modifié nos statuts pour transformer le conseil d'administration en conseil collégial, de manière à être dans un mode de gouvernance et d'organisation, de pilotage plus horizontal et moins hiérarchique autour d'une figure prédominante d'un président, d'une présidente qui cumulerait toutes les fonctions, toutes les responsabilités. On est en train d'expérimenter ça. Et ça permet pour nous, enfin en tout cas l'idée derrière, c'était de faire en sorte que chaque administrateur, chaque administratrice prenne sa part et monte en compétence, en capacité sur le pilotage du projet, sur des segments, qu'il y ait des logiques de référents, qu'on soit sur un mode d'organisation plus matriciel que hiérarchique. Donc ça pose aussi la question démocratique, en fait. Et ça, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et c'est une illustration de nos valeurs et de comment on perçoit aussi ce travail de réseau avec ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, la montée en capacité finalement de chacun dans les projets, quoi, et puis dans sa manière d'être acteur finalement, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Et du coup, et encore une fois, sur la question de la coopération, la question partenariale, la question de la rencontre partenariale, c'est évidemment pas une prestation, une logique de prestation entre un acteur et un... Enfin, entre deux acteurs, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et on parle beaucoup de coopération. C'est effectivement un mot très à la mode. Et moi, ça me fait marrer parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais alors, moi, je fais plein de coopérations. » Et c'est drôle parce qu'en fait, tu pourrais... Enfin, il y a 10 ans, il aurait dit partenariat, quoi. Donc soyons aussi... il n'y a pas de vigilance à avoir, mais soyons conscients de du sens des mots. Et la coopération, c'est quelque chose d'exigeant. C'est exigeant, ça s'inscrit dans du temps. Dans de l'écoute et c'est pas toujours compris par justement par exemple des partenaires publics parce que on est sur des logiques on tricote, enfin non, on fait de la dentelle, c'est mieux, on fait de la dentelle, donc on est sur des logiques à taille humaine on n'est pas dans des logiques industrielles, c'est vraiment très artisanal ce qu'on fabrique. Madame disait, enfin parlait de qu'ils avaient tous grandi ensemble avec l'expérience là de la chorale. Comment tu mesures ça, quoi? Alors voilà, notre projet il est super, on a tous grandi ensemble. Mais c'est une réalité et je pense que à l'aune de cet immense territoire qui se dessine. Je pense que l'avenir de nos territoires, c'est justement la proximité et la dentelle.
Merci.
Une dernière question. Puis
d'accord.
Ensuite,
euh
Bonjour, Samuel Moreau du pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat de l'Université de Poitiers. C'est pas vraiment une question, c'est une petite remarque sur ce que disait monsieur en comparant les initiatives et les coopératives au Québec par rapport à ce qui peut se faire chez nous. Avec le PEPIT, donc le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, on a eu des échanges. Et je pense que la grande différence, c'est que depuis 1998, le gouvernement provincial du Québec a mis en place des programmes entrepreneuriaux dès l'école primaire, et puis ça continue ensuite au secondaire, et puis ça arrive à l'université. Et c'est une culture de la société et qui invite les gens à utiliser leur créativité et à voir l'entrepreneuriat comme situation d'insertion professionnelle à la suite des études. Et ce qui fait ensuite qu'il y a beaucoup plus de projets entrepreneuriaux et donc de coopératives qui vont avoir lieu. Donc on essaye, nous, de mettre ça en place au niveau de l'université et d'entrer aussi au niveau de l'UFM, enfin de l'ESPE, l'ex-UFM, pour que ce soit des programmes qui soient proposés aussi un peu plus au niveau de l'éducation nationale pour inciter un peu plus à développer l'esprit entrepreneurial au niveau de l'éducation nationale.
Merci
beaucoup. Très bonne remarque, je trouve.
Il y a surtout à la base du Canada...
Une seconde. Pardon, excusez-moi, une question, excusez-moi.
Oui, à nouveau, François Maton. Ce n'est pas une question, c'est le témoignage, une expérience. De mon côté, j'étais chef d'entreprise pendant 25 ans. J'ai dirigé deux entreprises que j'ai vendues. Ensuite, je suis passé très rapidement au statut de salarié, qui ne me convenait pas beaucoup. Et à 56 ans, j'ai créé quelque chose d'assez original qui s'appelle donc le réseau-point.org. Et j'ai réuni 9 consultants ou 9 petites structures dans les domaines du marketing, communication, événements. Et en fait, tout ça chapeauté par une SAS que j'ai montée. On a signé une charte d'engagement entre nous. Chacun est indépendant, peut travailler bien évidemment de son côté. On se réunit pour mettre en commun nos compétences, nos carnets d'adresses, nos clients. Et ça fonctionne aussi tout à fait. On est à la fois dans une logique de liberté de chacun et de solidarité entre nous. Donc, de tous les schémas, il n'y a pas que la coopérative ou l'économie sociale qui peuvent fonctionner. Je veux dire que toutes les formules peuvent s'adapter et celles-ci fonctionnent très, très bien.
Merci du témoignage. On peut...
Voilà. Merci pour toutes ces contributions. Merci à Laetitia Chietti qui va succéder Laurent Lériot pour un autre... témoignage. Et pendant que Laurent Lériot s'installe, je propose à Jean-Marc Neveu de présenter l'autre volet avec l'expérience Entreprendre pour apprendre.
Oui, alors c'est l'autre regard de l'entrepreneuriat sur l'éducation nationale et on en parlait tout à l'heure en disant cette culture de l'entrepreneuriat et cette représentation où où en France on est très... C'est une représentation de la culture du patron, du salaud de patron, je voudrais dire, qui est en train d'un peu de changer, heureusement. Et donc, Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui est à la fois régionale et nationale et internationale, qui a pour but de faire aux collégiens, lycéens et universités des mini-entreprises. Donc le but, c'est pendant un an, c'est jouer aux entrepreneurs, en fait. Hein. Et c'est eux qui choisissent. Ils choisissent déjà entre eux, déjà, pour constituer le groupe. Après, ils choisissent l'idée. Hein. Et puis après, ils vont jusqu'au bout de la logique. Ils ont un compte chèque, etc. Et puis ils créent leurs produits et leurs projets. Ils présentent leurs projets. Et puis ils clôturent l'entreprise, en fait. On a commencé, nous, il y a 5 ans, en Poitou-Charentes, avec 5 projets. Aujourd'hui, on a plus de 70. Hein. Et merci à tous les pionniers, notamment l'Université de Poitiers, qui a bien joué le jeu. Aujourd'hui, on a plus de projets au niveau de l'université, au niveau Poitou-Charentes, que sur les autres territoires. Donc, on a cet esprit entrepreneurial. Alors pourquoi parler de l'entrepreneuriat comme ça? Parce que justement, concrètement, notamment par rapport aux jeunes qui sont en décrochage scolaire, notamment pour les niveaux collège, on s'aperçoit que les savoirs un petit peu théoriques et mon Dieu, l'éducation nationale ne se remet pas en cause, pas assez, ou alors elle a un problème de remise en cause, je ne sais pas par quel bout elle peut le prendre. Hein. Les savoirs qui sont un peu trop théoriques, et ben ça fait que certains jeunes sont en décrochage. Et à travers cette expérience-là, qui permet de dire ben voilà, à quoi ça sert de savoir faire une table de multiplication ou simplement écrire correctement du français, ben ça sert au projet, hein, concrètement. On est tous autour du projet et puis autour de l'individu, vous voyez, comme le décentrement déjà. C'est peut-être intéressant de travailler sur un projet et que l'individu contribue au collectif. Hein, c'est ça aussi le sens qui est un peu perdu. Et du coup, les savoir-faire sont matérialisés à travers le projet de l'entreprise. Et du coup, voilà, ça marche tellement bien que l'éducation nationale pense qu'on va pouvoir, à travers cette petite goutte d'eau, et je crois qu'il faut rester modeste, hein, on va pouvoir lutter contre le décrochage scolaire. Mais voilà, c'est pour dire qu'à quel point ça change les représentations de ce qu'est un élève, la représentation du professeur vis-à-vis des élèves. Et puis, c'est un projet qui est intéressant parce qu'il associe aussi des chefs d'entreprise, hein, qui viennent contribuer, donner et pas de l'argent. Hein, justement, on parlait de mécénat, etc. On ne donne pas de l'argent, mais du temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, la vraie valeur, c'est le temps qu'on consacre aux choses, hein, pas l'argent. Et du coup, à travers ces expériences, l'entrepreneur consacre du temps à ça, avec l'équipe d'entreprendre pour apprendre, etc. Ça permet de créer cette confiance et un réseau d'acteurs autour du projet. Donc on parle de réseau, là, on en est vraiment. Et on amène le réseau autour du projet. Hein. Et ça, c'est aussi des logiques qui sont plus dans le domaine culturel, où voilà, on bâtit le projet autour, et puis on ramène des différents acteurs autour du projet. C'est culturel, et très bien. Et puis, on fait. Donc, y a aussi l'ordre des experts comptables qui vient aider les jeunes. Donc, vous voyez, imaginez des jeunes de 12-13 ans qui voient un expert comptable, parce que jamais ils le reverront de sa vie, mais au moins ils le voient là. C'est extraordinaire. Ou ils le. Jamais de sa vie, où ils peuvent ne jamais plus le voir de leur vie. Enfin, voilà. C'est pas des gens qu'on fréquente tous les jours. Le pharmacien, oui, mais l'expert comptable, pas forcément. Et puis, voilà, donc ça donne un caractère très, très ouvert. Et je pensais tout à l'heure, on parlait de décrochage. On a une catégorie, alors c'est pas réservé aux classes supérieures, mais on a aussi une catégorie insertion. Donc, on travaille avec l'école de la deuxième chance de Châtellerault et la mission locale. Et même si c'est compliqué, hein, parce que faut pas aussi non dire que tout le monde, c'est pas le monde de Disneyland, hein. Mais on arrive, les jeunes arrivent autour de ces projets-là à créer des liens de confiance et créer un projet qui leur ressemble, en fait, c'est ça, hein. Et ils sont capables de pouvoir créer, et ils ont gagné donc plusieurs fois. Donc il y a un salon régional, puis un salon national. Ils ont gagné plusieurs fois au salon national en présentant leur projet, leur idée. Et ils ont été jusqu'au bout de ça. Et je crois que voilà, c'est ça l'idée aussi, l'intérêt d'avoir un regard différent sur, un regard différent, ça permet aussi d'expérimenter, de remettre en question l'organisation, mais de permettre à ce que dans l'organisation, il y a des expériences qui contribuent à faire évoluer le système et à changer les regards qu'on peut avoir, qui sont, à mon avis, très si on ne les remet pas en cause, qui peuvent être très stigmatisants pour les membres du collectif, en fait. Hein, voilà ça. Donc on recrée des expérimentations à l'intérieur de l'organisation pour permettre de la faire évoluer ou changer sa vision d'elle-même. Hein, je crois. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, moi je peux constater, et c'est pas que l'éducation, c'est pas que les organisations culturelles, je pense à un monde que j'ai fréquenté récemment et que je fréquente aujourd'hui, qui est le monde bancaire, qui est aujourd'hui complètement sclérosé dans un mode de fonctionnement et d'organisation qui aujourd'hui contribue à un manque de dynamisme au niveau de l'économie française. Voilà. Alors, eux, ils donnent du pognon, hein, voilà, mais ils ne donnent pas de temps. Parce qu'ils sont incapables d'accorder du temps. Donc, ils participent un peu à Entreprendre pour apprendre. Et on voit que c'est compliqué pour eux de changer de posture. Mais voilà, ça vient. Et à mon avis, une fois qu'on connaît la vérité, c'est Mao Tse-tung qui disait ça, vérité révolutionnaire, une fois qu'on connaît la vérité, on ne peut pas revenir en arrière. Et cette forme de vérité, de dire, c'est par l'échange et un décentrement de notre représentation, de nos représentations, qu'on arrive à trouver des solutions.
Merci beaucoup. Laurent Lériot va nous présenter son expérience.
Alors, moi, je m'appelle donc Laurent Lériot. Je suis, j'ai une double casquette. Je suis coordinateur d'un collectif des associations sur le quartier de Vineuble-les-Salines à La Rochelle. Donc, quand on parlait de coopération, nous, ça fait depuis 1977 qu'une cinquantaine d'associations coopèrent sur un quartier pour travailler sur le lien social et sur le vivre ensemble sur un quartier donc populaire qui ressemble un peu à celui de Strasbourg. Et puis, ma deuxième casquette, je suis depuis peu délégué d'une fondation qui s'appelle Fier de nos quartiers à La Rochelle, qui est la continuité d'une création de fondation d'entreprise qui a été créée en 2011, liée à une situation de ma première casquette de coordinateur de collectif d'association, où une des valeurs est une valeur d'indépendance. Et donc, pour éviter de tomber dans des logiques d'appel d'offres, que vous disiez tout à l'heure, on a été sollicité des partenariats privés de manière à garder cette forme d'indépendance et qu'on puisse développer, en tous les cas, permettre aux associations de développer leurs propres projets, sans tomber sur l'idée d'aller chercher de l'argent dans le public et de rentrer dans des cases. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné au départ. Et puis, le métier premier, c'est quand même d'être animateur et pas d'être technico-commercial. Donc, sur le même schéma qu'on a fait avec les associations dans les années 70, eh bien, on a sollicité les entreprises pour savoir si elles pouvaient actionner leur réseau de manière à également s'adosser à la vie sociale de leur territoire proche, en fait. Et donc, après quelques réflexions et rencontres, les entreprises, en tous les cas les responsables d'entreprise, ont plutôt opté, au lieu d'opter sur une forme de collectif d'entreprise, ont plutôt opté sur l'idée de fondation et de donner un caractère entre guillemets noble à la question et d'associer les voisins, enfin les entreprises voisines à la démarche. Voilà. Donc cette fondation, en fait, elle a pour but de réunir des fonds de manière. Alors on est dans une démarche de mécénat, bien sûr. Et l'idée, c'est quand même de rapprocher le monde de l'entreprise, du monde social et du monde associatif, et donc de jouer cette carte de proximité. Donc, les porteurs de projets viennent présenter leurs projets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres, c'est-à-dire que les associations remplissent un dossier de subvention où elles présentent leurs projets, elles écrivent leurs projets. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de formaliser la demande et pourquoi on demande. Et puis, elles viennent présenter leur projet. Donc, il y a un conseil exécutif. Et donc, là, il y a une vraie relation entre l'habitant, qui est responsable de son association, et les chefs d'entreprise, qui sont, eux, organisés en fondation. Mais en même temps, il y a une forme d'échange qui se met en place. Ce qui est assez intéressant, parce qu'en fait, au-delà de la distribution pécuniaire, forcément, ça crée du lien, du lien social entre les entreprises et le territoire. Et ça crée également des connexions de savoir-faire qui font qu'à un moment donné, les entreprises, même les chefs d'entreprise, se prennent au jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont donné 1 000 ou 1 500 ou 10 000 euros pour certains. Mais au-delà de ça, ils ont des compétences en interne. Et donc, ils savent que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la créativité de leur de leurs salariés, eh ben, à un moment donné, le comptable peut intervenir dans une association, la secrétaire peut aussi venir donner un coup de main. On a une imprimerie, il y a des savoir-faire en infographie, comment on peut aider aussi à avoir une affiche un peu plus correcte. Enfin voilà, en fait, ça a créé des choses comme ça. Et puis donc l'idée a tellement bien séduit que en fait on a été sollicité par alors les élus locaux pour savoir s'il était possible de décupler l'expérience et de faire des fondations dans les autres quartiers Rochelais. Et donc la solution qui a été proposée, c'était au lieu de faire des petites fondations partout, c'est de faire une fondation élargie à l'ensemble des territoires rochelais. Et on est également partenaire de la politique de la ville. Et donc, on va être amené à travailler sur les différents quartiers classés prioritaires. Voilà. Donc aujourd'hui, le travail, c'est d'aller aussi à la rencontre des entreprises pour, faire la promotion de cette expérience-là. Et puis également d'aller voir les porteurs de projets des territoires pour, quand on parle de cette culture-là, effectivement, quand on dit que les mondes ne se rencontrent pas forcément, parce que c'est juste un problème de culture. Et donc, il y a aussi ce travail-là à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, le monde de l'entrepreneuriat, le monde associatif, le monde culturel ou social, le sportif, c'est un peu différent parce qu'ils ont déjà cette culture-là. Mais en tous les cas, c'est les milieux culturels, social, solidarité, ont une forme de méfiance du monde de l'entreprise. Et donc, c'est jamais très évident. Voilà, moi qui suis un peu au milieu des deux, je trouve qu'il y a plus de freins du monde culturel, social, de solidarité à aller vers l'entreprise que l'inverse aujourd'hui. Il faut qu'on développe cette affaire-là. Voilà. Donc les projets peuvent aller les aides peuvent aller d'une enveloppe de 500 euros alors le maximum qu'on a dû distribuer, ça doit être 8 000 euros, 8 000, 9 000 euros, mais en fait, il n'y a pas de valeur, c'est-à-dire qu'on peut être dans le coup de pouce comme dans le cofinancement ou dans la co-construction, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'un projet associatif, aujourd'hui, il y a des projets pour 500 euros qui ne se font pas parce qu'il manque ce petit coup de pouce là qu'il faut pour lancer la machine. Et puis c'est assez dommage que ça se fasse pas. Et c'est aussi ça la créativité, c'est-à-dire que il y a des petits porteurs, c'est-à-dire que effectivement on parle d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat en fait c'est le projet. Enfin pour moi je le considère comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens qui ont un projet sont entrepreneurs. Et donc quand il leur manque 500 euros pour développer leur projet, qui va peut-être donner lieu demain à un autre projet qui coûtera 1 500 et monter dans l'échelle. Et voilà, la fondation peut sert également à ça.
Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des interventions, questions, suggestions.
Je voudrais juste rajouter, mais peut-être Laurent l'a précisé, qui est la présidente et qui est l'animateur, parce que là, il y a aussi un duo intéressant.
Oui. En fait, donc il y a un conseil exécutif, donc il est composé des 7, il y a 3 collèges, donc il y a 7 fondateurs, donc ça c'est le collège des fondateurs, il y a un collège d'experts, donc ça c'est des personnes qui sont des personnes des quartiers, qui connaissent le milieu associatif ou le milieu culturel, et donc qui ont un regard particulier sur le territoire de proximité, et puis il y a un collège de donateurs. Donc les nouvelles, dans l'élargissement, on a permis d'avoir un collège supplémentaire, des personnes qui viennent rejoindre et qui soient représentées et qui puissent intervenir dans les décisions. Et donc la présidente est une des fondatrices qui est, en fait, qui est une, une femme du quartier de Vigneulles-Salines qui est venue rejoindre son père dans la passation de l'entreprise. Et donc, ça lui tient à cœur d'être dans cette fondation parce que voilà, c'est aussi rendre au quartier ce qu'elle a pu recevoir étant plus jeune. Elle était à l'école dans ce quartier-là, elle était au collège dans ce quartier-là. Et donc, elle a ses amis aussi dans ce quartier-là. Donc, c'est aussi rendre un peu ce qu'elle a reçu étant gamine. Et puis, c'est aussi... quand on parle de regard, c'est un peu ça. C'est comment les jeunes, mais aussi les habitants, portent un regard différent sur le monde de l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des enfoirés de patrons. Il y a aussi des gens qui ont une entreprise à taille humaine et qui, malgré tout, quand ils viennent les rencontrer, se rendent compte qu'ils sont aussi sympathiques que leurs amis de palier, leurs voisins de palier, qu'ils sont aussi abordables que leurs voisins de palier et qu'en plus, ils passent plutôt un moment plutôt agréable. Donc voilà, il y a cette forme de relation qui se met en place. Donc ça, moi, c'est assez intéressant pour moi parce que c'est aussi par rapport à ça que les jeunes aujourd'hui dans les quartiers ont cette difficulté aussi à passer le pas, à aller voir les entreprises. Donc c'est aussi un des volets de la fondation aujourd'hui, c'est comment agir sur l'emploi d'une manière différente que ce qui se fait aujourd'hui, soit à travers le pôle emploi. On se rend compte qu'ils ont, les entrepreneurs en tous les cas, c'est le discours qu'ils ont au sein de la fondation, c'est qu'ils ont une difficulté à recruter des personnes, alors que sur les territoires sur lesquels la fondation intervient, c'est les territoires où il y a le plus de demandeurs d'emploi, où le taux de chômage chez les jeunes est le plus important dans la région. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc on a parlé de la mission locale tout à l'heure. Il y a un dispositif qui se met en place qui est garantie jeunes, qui permet à des jeunes d'avoir une allocation pour de moins de 25 ans, d'avoir une allocation pendant un an et l'obligation de s'inscrire dans un parcours d'accompagnement. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut inciter les entreprises, ils sont acteurs sur la question, mais inciter les entreprises à pouvoir accueillir des jeunes dans un parcours professionnel, d'être aussi initiateur de visites d'entreprises, c'est-à-dire qu'amener le groupe à visiter les entreprises, que les jeunes se rendent compte que dans les entreprises, il y a plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'une imprimerie, on parle de rotative, mais dans les projections, on se dit, effectivement, il y a un comptable, il y a une secrétaire, il y a un technico-commercial, il y a un infographiste. Dans les projections des personnes... on va pas chercher du boulot ici parce que moi, je suis pas imprimeur. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça, quoi. Donc l'idée, c'est aussi de faire découvrir le monde de l'entreprise.
Voilà. Juste ajouter que c'est Delphine Rotard, hein, c'est ça,
oui,
la présidente,
pardon.
Est une ancienne du CJD.
Géraldine, oui.
Géraldine Rotard, ouais. Pardon. Puisqu'on a des représentants d'EG, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est EG, mais c'est un outil intéressant, je pense, y compris pour les ateliers de la création, qui, à mon sens, devrait avoir cette vision beaucoup plus large que peut-être l'entreprise classique. Mais voilà.
Je ne voudrais pas monopoliser la parole trop longtemps. Si vous ne connaissez pas EG, nous sommes une association nationale à caractère économique et social qui œuvrons. Nous sommes tous des bénévoles et retraités ou pré-retraités. Et nous œuvrons aussi bien dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et de l'entreprise. J'écoutais attentivement monsieur qui parlait effectivement de l'aide à la réinsertion à l'emploi, de l'accompagnement. C'est ce que nous faisons aussi bien. Donc, parce que pour nous, l'emploi, c'est la création. Ça passe par la création d'entreprises, bien sûr, des petites entreprises, et notamment au niveau local. Et l'emploi, ça passe aussi par les jeunes, dès le décrochage scolaire en collège, dans les lycées, à l'université. Donc nous intervenons dans tous ces établissements-là, sur demande, on essaye de se faire connaître de plus en plus. Et c'est avec plaisir que j'ai rencontré M. Daniel il n'y a pas très longtemps.
et qui nous intègre, parce que nous aussi, pour œuvrer, pour accompagner dans ce sens-là, je crois qu'il faut faire, c'est la notion de réseau qui est la plus forte. Et c'est comme ça qu'on... Et nous découvrons quand même le côté culture artistique qui nous sensibilisait déjà depuis un certain temps. Et moi, je pense que le rapprochement, comme on fait le rapprochement entre les établissements de formation, je pense que le rapprochement de la culture, de l'art et de l'entreprise, il faut surtout pas les dissocier. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
Il faut savoir qu'il y a des organisations régionales. Hein, dans chaque région, il y a ça. Vous êtes pour le Poitou-Charentes, mais vous trouvez ça dans toutes les régions de France. Donc c'est aussi l'idée aujourd'hui de faire croiser les réseaux, de les faire connaître. C'est la même chose pour le CJD d'ailleurs, hein, Jean-Marc. Oui.
Je voulais parler par rapport à votre remarque sur le monde sportif. Nous, on a fait notre congrès régional à La Rochelle et on a invité des différents sportifs. Et on avait invité des sports collectifs, hein, comme les gens du PB 86, et puis des gens plutôt de La Rochelle qui sont sur de la planche à voile, des choses comme ça. Et alors là, pour le coup, on est un peu tombé des nues parce que il n'y a aucun espace de dialogue entre ces différentes disciplines. Il y a vraiment des barrières. Entre le sport collectif, le sport individuel. Puis dans le sport individuel, quand vous faites du tennis, ça va bien, mais quand vous faites de la pêche ou du windsurf, bonne chance, quoi. Et du coup, les sportifs témoignaient de ça. Il y avait un qui était 26 fois champion du monde.
Beau.
Ouais, ouais. On l'avait invité et il disait, je suis inconnu, quoi. Non, mais tout ça pour dire que même dans les disciplines où il y a des... On peut avoir des cloisonnements et l'idée pour eux, c'était intéressant. Bon, ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient là parce qu'ils disaient qu'on n'a pas l'habitude d'être réunis sur un même plateau, hein, les sports collectifs. On est très hiérarchisés et puis on voit bien à quel point ça peut être. Mais ils sont sur un territoire, ils veulent travailler, ils veulent rester sur leur territoire, mais il n'y a aucune coopération entre eux. Bon, voilà. Chaque fédération, on voit bien, chaque fédération est dans son mode de fonctionnement et son mode de gouvernance, si on peut parler de mode de gouvernance. Mais il n'y a aucune coopération et pour le coup, ils veulent rester sur leur territoire. Je pense à une fille qui s'appelle Charline
Picon.
Ouais. Et elle est rattrapée par la Manche pour rester sur Poitou-Charentes. Mais à part ça, il n'y a pas de coopération. Elle dit moi, j'ai besoin aussi que les réseaux associatifs et entrepreneuriaux se mobilisent pour que je puisse rester parce que j'ai envie de rester ici. C'est une région que j'aime bien. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune coopération, aucune vision globale du monde sportif. Et Dieu sait qu'il y a des talents sur notre territoire. Et malheureusement, à part les mettre sur une photo, il n'y a rien concrètement qui se passe. Donc voilà, c'est ce qui peut être aussi attractif, hein, pour les jeunes, et notamment de dire qu'il y a des vraies filières ou des vraies coopérations entre réseaux pour que le monde sportif contribue. C'est marrant, je pense à ça en même temps, mais on parle de santé au travail. Mais pourquoi on ne ferait pas venir un certain nombre de sportifs pour de savoir que eux, ils ont une hygiène de vie qui contribue. Eux, ça ne leur gagne pas. Hein, donc s'ils ne sont pas en forme, ils n'ont pas de pognon. Donc, clairement, comment on peut faire toucher du doigt ça, un ensemble des salariés, sera plus parlant que des PowerPoint ou un discours de la directe. Voilà.
C'est dit directement. Bon, peut-être Marie-Pierre, on peut.
Alors, on ouvre sur des questions, si vous souhaitez poursuivre.
Simplement un témoignage par rapport à ce que disait M. Neveu sur les EPA, leur initiative, puisqu'en ma qualité d'enseignant, j'ai vécu l'expérience indirectement avec une collègue, avec des élèves de seconde. Et c'est vrai que, même si ça reste toujours par rapport à, je dirais, les défis que nous avons à relever dans ce pays en matière d'insertion des jeunes, puisqu'on est champion, je ne dis pas champion du monde, mais champion en Europe, en tout cas, je dirais, de l'exclusion des jeunes, hein, puisque 150 000 sortent sans diplôme, sans formation chaque année. On connaît le terreau sur lequel nous sommes. Vous avez fait allusion aux missions locales, certes. Tout ça reste je dirais, des réalités malheureusement qui, où les dysfonctionnements sont réels et insuffisants. D'accord ? Ça, c'est la réalité. Ça, c'est une réalité, je dirais, de notre pays. Mais je voudrais saluer l'initiative, justement, puisque vous avez fait allusion aux déficiences, en quelque sorte, du système éducatif. Elles sont réelles. Hein, lorsqu'on le vit dans une salle, la manière dont un cours se déroule... Moi, je l'ai vu, puisque en seconde, vous avez un enseignement d'exploration, SES, et à côté de ça, vous avez un enseignement orienté sur la gestion d'entreprise. Alors, évidemment, lorsque vous êtes en enseignement d'exploration sciences économiques et sociales, vous avez un public, que vous l'avez dit, on manipule des concepts, des notions, très rapidement, se désintéresse évidemment de ces notions. Par contre, il y a ma collègue qui a justement s'est lancée justement dans un projet comme ça l'année dernière à Angoulême. D'ailleurs, ils ont fini premier dans le département et deuxième ou troisième au niveau national. La transformation des gamins, des jeunes, lorsqu'ils se sont lancés dans ces projets. Quoi. Bon, à la fois, bien entendu, allez, je m'échappe de ma classe. Voilà. Je suis sollicité parce que des journalistes viennent nous voir pour ce que je leur parle de mon projet. Je rencontre des chefs d'entreprise, je m'ouvre à d'autres réalités, quoi. C'est-à-dire je m'inscris dans une autre démarche, je dirais, qu'une démarche, je dirais, d'échec, quoi, de reproduction, hein, c'est de reproduction sociale, voilà. Je crois que c'est, on souffre évidemment dans notre système, c'est que les élèves, on les contraint, on les assigne à être, je dirais, assis. Et attentif à leurs professeurs. Et ça, c'est redoutable par rapport à ces nouvelles générations, ceux de gamins qui ont envie d'être acteurs, qui ont des opinions à exprimer, qui fonctionneraient très bien sur le mode projet, quoi. C'est clair, quoi. Donc évidemment, moi, enseignant, avec mon expérience aussi d'autres vécus, en quelque sorte, j'essaye d'essayer, en marge, de modifier tout ça, c'est-à-dire de les rendre plus acteurs, de les faire gagner en confiance, de savoir ce que aussi c'est, veut dire communiquer. Donc tout ça est très bénéfique, et pourquoi pas inoculer chez eux aussi cette envie d'être entrepreneur, ou en tout cas gérer sa vie sur le mode projet, quoi. C'est-à-dire, je crois que c'est le message au-delà de cette idée d'aller, on va faire des chefs d'entreprise. De toute façon, on ne fera pas chef d'entreprise si on ne fait pas si on ne sensibilise pas ces gamins, je dirais, à l'importance de l'autonomie et de l'aptitude à mener, je dirais, des projets, quoi. Donc voilà, je voulais saluer ce que vous faites. Comme vous l'avez dit, c'est une goutte d'eau dans un océan, et que cette initiative, c'est vrai aussi. Qui existe en Poitou, qui réussit en Poitou-Charentes et qui ne se décline pas forcément dans d'autres territoires français. Voilà, bravo pour ce que vous faites. Voilà. Merci.
Je voudrais ajouter quelque chose, et on en a tous parlé dans nos interventions. Je trouve que c'est un mot du CJD qui me plaît beaucoup dans le terme expérimentation, parce que derrière le mot expérimentation, et ce qui est aussi intéressant dans ce que vous dites, c'est sous-jacent à ça, c'est le droit et l'erreur. En fait, parce qu'ils peuvent se planter, les gamins, et ils se plantent. Et du coup, ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait qu'ils se plantent ou qu'ils réussissent, hein, c'est le fait de collectivement de trouver des solutions aux difficultés, parce qu'il y en a. Hein. Il y en a qui sont... je pense à un truc au niveau de l'université, mais je ne dirais pas trop. Mais le fait de créer un certain nombre de projets va en contre... je pense à des plateaux repas, hein, notamment parce que le Crous n'était pas tout à fait. Allez, je me lâche. Le Crous n'était pas tout à fait d'accord là-dessus, et donc, du coup, voilà, ils ont considéré ça comme de la concurrence. Enfin, voyez le niveau un peu. Je pense que ils ont eu des difficultés, mais à un moment donné, collectivement, et c'est ça qui est intéressant, parce que en fait, on touche du doigt ce que disait Madame par rapport à l'utopie, en disant. Et on voit bien la difficulté entre être l'artisan, l'artiste de sa vie, mais en même temps, on peut réussir qu'avec les autres. C'est ça, en fait, le paradoxe qu'il faut résoudre. Hein, c'est qu'on est artiste de sa vie, mais on peut le faire qu'avec les autres. Donc à quel point on n'est pas, comment dire, comme vous disiez l'utilisation tout à l'heure, c'est récupéré par le système. Mais on est forcément récupéré par le système parce qu'on ne peut pas se construire tout seul. Et je crois que c'est ça ce qui touche du doigt et du fait que, ben, que tout seul, de toute façon, on va dans le mur et que par ce projet-là, ce n'est pas grave d'aller dans le mur parce qu'il y a toute une organisation derrière et on a le droit de se tromper.
Merci. On va peut-être passer à la prochaine intervention. J'appelle Hélène Millière à nous rejoindre.
Merci, bonjour. Hélène Millière, conseillère en formation continue au Greta Poitou-Charentes. Donc le Greta, c'est un organisme de formation publique, voilà, certains le connaissent peut-être. Donc mon témoignage, je vais juste approcher le micro, le témoignage aujourd'hui, enfin ce que vous m'avez demandé en termes d'expérience, c'est sur la maîtrise de la langue française. Donc lié, enfin par rapport à moi, c'est la formation continue, hein, effectivement. J'avais juste envie de faire écho à ce que j'entendais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on maîtrise, qu'est-ce qu'on mesure dans les échanges qui se passent dans le lien social, qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qui nous échappe. Et ça a fait un peu écho, parce qu'effectivement, le Greta, mais d'autres organismes, hein, peu importe, aujourd'hui propose des formations ou des temps de pour améliorer la maîtrise de la langue française. Alors, un organisme certificateur s'est engouffré dedans, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le TOEIC, donc c'est la maîtrise de, c'est un score qui vous permet de maîtriser l'anglais. Il y a la même chose qui s'appelle le certificat Voltaire, qui est sur un score. Vous passez un examen, vous avez un score qui indique une maîtrise de la langue française. Aujourd'hui, on est sollicité par un certain nombre d'entreprises, puisque voilà, notre mission, autant donc de service public, autant pour former des personnes loin de la qualification, mais autant pour répondre aux besoins des entreprises. Et on est sollicité pour que les salariés maîtrisent, enfin, en tout cas, améliorent leur maîtrise de la langue française. Alors, finalement, c'est au service de qui? C'est au service de l'individu ou au service de l'entreprise? Alors, le contexte, il est notamment des nouvelles technologies. On s'envoie des mails, il faut que ça part vite. Il y a besoin de réactivité dans l'écriture des relations professionnelles ou des voilà. Et en même temps, il y a la dématérialisation. On est dans un contexte de travail qui est beaucoup dans l'écriture. En même temps, nous ce qu'on entend en tant qu'organisme de formation continue, c'est la prise en compte des personnes dans les entreprises qui ne maîtrisent pas l'écriture et la lecture. Et alors, évidemment, le niveau national s'en est saisi en créant un fonds de sécurisation des parcours, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui permet de former des adultes en très grande difficulté avec la lecture et l'écriture. Donc les organismes collecteurs de fonds de formation aussi proposent aujourd'hui, alors évidemment des collectivités territoriales aussi, comme la région, conseil général, etc., et des collectivités des villes, prennent en compte et en tout cas se disent que former ou en tout cas améliorer la maîtrise de la langue française, que ce soit à l'écrit ou à l'écrit ou à la lecture, va améliorer sûrement l'efficacité de l'entreprise ou de la collectivité. Voilà. Nous, ce qu'on se rend compte, en tout cas, quand on répond à cette commande-là, c'est qu'évidemment, l'individu, en s'organisant aussi, Et quand voilà, on m'a demandé d'intervenir, c'est aussi finalement en termes de créativité, est-ce que, enfin la question que je vous pose finalement, c'est est-ce que la maîtrise de la langue française va permettre la créativité? Est-ce que c'est indispensable pour s'inscrire dans cette créativité, dans ce lien qui est fait aujourd'hui entre l'entreprise et la créativité? Enfin, j'ai trouvé ces débats intéressants, en tout cas, et de ma fenêtre, de mon angle d'organisme de formation et de cette attente de la langue française. Voilà, finalement, qu'est-ce que ça apporte? Et est-ce que c'est aussi un levier pour permettre aux salariés, à la personne de prendre de l'assurance et d'aller plus loin et soyons utopistes ensemble. Voilà. Voilà, en fait, le propos est là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, l'expérience qu'on a est là et les demandes sont de plus en plus fortes. Alors, effectivement, alors, il y a la langue française dans la syntaxe, la grammaire lexicale, etc. Il y a aussi la demande de formation sur la capacité de synthèse, de description. À un moment donné, si on ne peut pas décrire une situation, ça devient problématique en entreprise. Alors, je ne vous parle pas de l'utilisation du numérique et de la bureautique dans les entreprises. Et c'est ça aussi qui a fait apparaître une vraie rupture dans les personnes en difficulté de lecture et d'écriture, quand elles ont dû, à un moment donné, rendre compte par informatique de ce qui se passait. Voilà.
Merci. Des interventions?
Oui. Oui, alors, sur la maîtrise du français, si on prend la question inverse, si quelqu'un ne maîtrise pas du tout la langue, comment il va pouvoir mettre en œuvre ses compétences dans le monde aujourd'hui? Enfin, ça paraît compliqué. On parle justement de connexion au réseau, etc. Est-ce que tout le monde a accès au réseau? Et s'il n'a pas la maîtrise du français, comment il peut avoir une maîtrise, une connaissance de ces réseaux? C'est compliqué. Enfin, moi, je voudrais... ma vision d'entrepreneur aujourd'hui, c'est que le monde de l'entreprise, c'est le monde du temps court. Hein, c'est Ferry qui dit ça. Le monde du temps court, c'est le monde productif, en fait, où on est... dans la mise en œuvre de ses compétences, on est dans le championnat de basket, hein, où il faut réussir la saison. Mais il y a aussi le temps long, et le temps long, c'est le temps de l'apprentissage, ou le temps culturel, ou le temps de la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, nos entreprises, ou comme on va dire, comme on voit bien, ou les autres institutions, c'est l'articulation entre ces temps rapides de production où on déroule et on est productif et rentable, productif. C'est la première fois que j'utilise ce mot. Hein. Ça me choque moi-même maintenant en l'utilisant, parce que j'ai fait un audit hier et des entreprises qui n'étaient pas du tout dans le modèle, ils me parlent de productif et d'improductif. Et du coup, ça me revient en mémoire et je pense que les frontières aujourd'hui sont quand même à revoir là-dessus. Donc voilà, du temps productif ou du temps vendable et du temps où on apprend. Et je pense que c'est cette articulation-là. Si les entreprises font appel plus pour des fondamentaux, c'est qu'elles ont compris qu'il y a aussi des temps, le temps long de l'apprentissage est nécessaire. Sauf qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans un système où, si on prend les demandeurs d'emploi, il n'y en a que 10 ou 20% qui ont accès à la formation. Donc on n'est pas du tout sur des modes où on est soit productif, soit on apprend à l'école, ou soit on est dans un projet culturel, ou soit on ne l'est pas. Voilà, mais ces articulations ou ces respirations entre ces organisations-là, où on a un statut et pas, c'est très lié au statut en fait, hein, fait que il y a beaucoup de barrières à l'enrichissement de nos réseaux respectifs. Et c'est ça qui est en fait un peu dommage, c'est que si vous êtes chômeur, vous êtes chômeur, quoi, en gros. Mais vous ne pouvez pas apprendre. Enfin, voilà. Alors que si vous êtes salarié, vous pouvez apprendre. Enfin, après, il y a des catégories de salariés qui ont le droit d'apprendre et pas d'autres. Enfin, bon, suivant. Enfin, je voilà, toutes ces choses-là, ces respirations-là, et à mon avis, nos organisations doivent prendre en compte le fait qu'il y a des temps longs et des temps courts, et on ne doit pas mélanger les temps courts à la place des temps longs, et pas mélanger les temps longs avec les temps courts, et que les deux sont nécessaires pour qu'une société puisse respirer et puisse pouvoir trouver et continuer à apprendre. Et c'est pas par opposition au modèle où on faisait nos études et après on travaillait et puis après on pouvait profiter. Hein. Aujourd'hui, je pense que les jeunes générations, elles croient plus trop à ce modèle-là. Et donc, elles ont besoin à la fois d'apprendre, à la fois de profiter et puis à la fois de contribuer aussi, mais à sa juste mesure. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, le dialogue, c'est qu'elles ont besoin de pouvoir actualiser ce contrat-là, on va dire, en permanence. Et c'est à ces défis-là, en fait, que nos organisations sont confrontées. Il faut faire sauter un peu ce verrou de statut. Mais en France, c'est quand même aussi ça qui est, à mon avis, vu de ma fenêtre, qui bloque un peu les choses.
Jean-Marc, puisque tu as la parole, peut-être tu pourrais continuer sur la notion de richesse et territoire, parce qu'au fond, c'est une valeur, enfin, c'est une thématique que défend le CJD. Tu peux peut-être dire deux mots là-dessus.
Oui, mais j'ai peur de parler tout le temps. Donc, ah bon? Non, la richesse et territoire, c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure du capital immatériel du territoire, où il y a ces écoles. Hein, et je pense que Poitiers devrait se souvenir un petit peu de ça en disant que la richesse de Poitiers, c'est aussi ses étudiants. Que demain, s'il n'y a plus d'étudiants, Poitiers, ça va devenir compliqué quand même. Hein, et qu'aujourd'hui, une expérience, c'est de dire, voilà, les étudiants, à travers le programme Entreprendre pour apprendre, ou avec le CJD, on a un dispositif qui s'appelle les trophées de la performance globale, et qui ont pour but de prendre des binômes, des équipes, et puis d'aller faire des audits hein, dans les entreprises. Donc, c'est les étudiants qui se déplacent et qui font un bilan des entreprises locales en disant, bah voilà, est-ce qu'elle est performante économiquement, socialement, sociétalement, et puis environnementalement, ça sera environnemental. Et puis, ils font des préconisations. Et du coup, voilà, à travers ce prétexte, ça leur permet de connaître les entreprises. Il y a des étudiants qui ne connaissent pas du tout les entreprises qui sont en local. Et du coup, l'idée, c'est de dire que s'il y en a 10% ou 5% qui restent, eh ben on aura contribué à la richesse des entreprises, parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont un peu connues, les PME. Quand vous parlez d'entreprises, c'est tout de suite des boîtes de CAC 40, et qu'il y a aussi des vrais projets, des vraies idées, des vrais partenariats qui peuvent se créer en local avec des vrais produits. Hein, je pense notamment à ce qu'on a fait à travers une start-up qui s'appelle avec le thé, là, la maison du thé, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, où ils font du thé. Et donc, les jeunes ont contribué à valoriser cette entreprise-là et pourquoi pas de pouvoir continuer quand ils auront fini leur parcours. Hein. L'idée, ce n'est pas de les retenir dès la fin de leurs études, mais qu'ils sachent qu'il y a des entreprises et qui pourront revenir et qu'elles sont aussi internationales. Et je rebondis là-dessus. Le fait d'avoir une culture aussi sur l'international et d'être aussi riche d'un point de vue culturel sur toutes les musiques du monde, ça permet aussi d'avoir des passerelles et des comportements différents quand on envoie, par exemple, des collaborateurs sur des marchés. Moi, j'étais, avant d'être dans le milieu de la plasturgie, j'étais dans le milieu de l'aéronautique, et j'envoyais des collaborateurs, notamment en Inde, au Pakistan, et qu'il fallait qu'ils puissent, ou en Iran, qu'ils puissent se comporter de façon adéquate par rapport à la culture du pays. Et ça, c'est un vrai savoir qu'on n'a pas dans l'école, je ne suis pas sûr, et qu'on peut mesurer à travers les échanges qu'on peut avoir culturellement ou d'un point de vue représentation.
Voilà. On a encore quelques minutes, donc peut-être ouvrir, puisque c'était le but de l'atelier, comment aller plus loin justement dans cette rencontre entre le monde de l'entreprise, au sens large, j'entends bien Anne ce que tu revendiques et je partage, et ce monde, tout à l'heure Laurent Lériot nous a alerté sur le côté social, et c'est vrai qu'on a,
On n'a pas raconté l'anecdote de Strasbourg, mais elle est quand même intéressante. C'est-à-dire votre président qui est JD, heureusement qu'il est aussi au MEDEF à la CAF, parce que sinon, ça ne marchait pas, quoi. C'est-à-dire que la CAF n'entérinait pas du tout qu'il puisse prendre la présidence du Centre socioculturel. Moi, j'ai connu un avatar il y a 20-30 ans là-dessus, où les administrateurs syndicaux, que je tirais le nom, cartonnaient un peu parce qu'on travaillait avec les entreprises du quartier des Trois Cités. Donc, voilà, la mentalité, elle est quand même encore là. Et je crois qu'il y a M. Amouyal dans la salle, je ne sais pas s'il est encore là, ouais, qui pourrait témoigner aussi de la difficulté qu'il peut avoir peut-être quand il va voir les institutions culturelles et qu'il leur parle de son travail avec les entreprises. C'est le côté inverse. Donc, voilà, il y a quand même, je pense, ce n'est pas pour entériner une séparation, mais il y a quand même encore, et c'est ça l'objet de l'atelier de ce matin, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer ça ? On ne va pas régler ça ce matin, mais il y a les cinquièmes journées l'an prochain. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et comment peut-on faire pour aller plus loin ? Qu'est-ce qu'il faudrait convoquer ? Qu'est-ce qu'il faudrait, quel type de réseau faudrait-il développer ? Voilà, c'est ça un peu l'objet qu'on peut avoir dans les 10 à 15 minutes qui nous restent. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur ce thème.
Moi, simplement une réflexion par rapport à ce que tu disais. Moi, quand je t'écoute, la difficulté, c'est comment faire face à des débats idéologiques, quoi. C'est quelque part. Donc, moi, c'est ce que la première réaction que j'ai, quoi, si tu veux, idéologie, quoi. Idée qui s'affranchit du réel, quoi. Donc, à partir de là, quand tu as affaire à des gens, de toute façon, qui peuvent être totalement de mauvaise foi, donc avec des construits, quoi. Je veux dire, la culture syndicale ou la culture militante, ça obéit à des logiques qui sont complètement distinctes de ce qu'on est en train de dire ici, d'une démarche strictement scientifique, fondée sur la vérité, etc., quoi. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, moi, en tout cas.
Tu as 3 jours pour réfléchir et nous donner des éléments de réponse. Très rapidement.
Mais ça fait le lien avec le propos introductif, puisque le groupe... était sur l'opposition bourgeois-prolétaire au départ. Et puis, moi, je voudrais m'inscrire en faux sur le fait de rentrer dans le système. Le système dans lequel on est aujourd'hui, il faut bien voir qu'à moyen terme, il est en implosion. Donc, il va disparaître, il est en train de se suicider tout seul. C'est le système financier capitalistique qui est une mauvaise dérive du système capitalistique dans lequel on est rentré il y a 25 ans. Ben, on va en sortir, mais par une chute brutale. Donc c'est inscrit. Par contre, tout ce dont on parle aujourd'hui, et le titre qui m'avait amené chez vous, c'était créativité. Créativité, c'est universel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'universel ? C'est le respect des personnes. Et quand vous rentrez dans le respect de l'autre, eh bien, à ce moment-là, vous lui faites prendre conscience qu'il a une existence, qu'il peut avoir des compétences, et comment il découvre ses compétences, et comment il se grandit à travers ça. Et là, on n'est plus du tout sur le registre des diplômes. Et quand madame parle du français, moi, j'ai embauché il y a 1 an et demi une jeune femme qui est dyslexique. Dyslexique, elle s'est fait sortir du système scolaire. Or, quand on travaille avec elle, elle a toute son intelligence, elle est créative. Et je m'aperçois que depuis 1 an et demi, elle ose écrire des comptes rendus de ce qu'elle a fait dans la journée. Et puis, avec mon épouse, on s'est dit, tiens, maintenant, elle sait tenir la ligne droite. Et comme avec mon épouse, on travaille que là-dessus, que sur le respect de l'autre, l'empathie, et bien, je dis, je pense que c'est, pour reprendre un propos, c'est quelque chose d'immatériel qui est entre nous, et c'est le petit apport que l'on a pour elle, et elle nous le restitue comme ça. Voilà. Et je pense que si vous remettez ça dans les contextes de tous les jours, et entre toutes composantes de la société, vous arrivez à une utopie, certainement, mais à quelque chose qui fonctionne mieux.
Merci pour le témoignage. Il y a une prise de parole au fond.
Merci. Bonjour, Pierre Perrault, conseiller scientifique à l'Espace Mendès France. Moi, je vais tenir un peu le propos du sociologue qui a à la fois l'habitude de travailler sur ce qu'on appelle l'action collective, mais aussi sur... les bureaucraties, les organisations, des choses qui peuvent paraître quelquefois froides et un peu inhumaines. Et ce que j'aurais tendance à proposer au débat, c'est que pour qu'il puisse y avoir une certaine forme de rencontre entre des gens dont les intérêts sont néanmoins antagonistes, il faut que tout le monde ait conscience que ces intérêts soient antagonistes. C'est-à-dire que le dialogue existe à partir du moment où on peut à la fois se respecter soi-même, mais respecter que l'autre ne pense pas comme soi. Je pense qu'il faut de l'empathie pour ça, bien évidemment, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui permette de situer qu'on est différent. Qu'on est différent et que, par exemple, il y a un contrat de travail et que dans le contrat de travail, il y a quelque chose qui s'appelle la subordination. Alors, moi, j'aimais beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Neveu, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les espaces de liberté sont des espaces d'autonomie et de développement personnel pour les salariés, et puis quelquefois, ils sont contributifs à ce qui est la vie de l'entreprise. Et je pense que ce qui est intéressant dans le débat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a en fait toute une série là de périmètres où on a des gens qui, au-delà de leur dimension de chef d'entreprise, de salarié ou de militant syndicaliste, peuvent avoir une certaine forme d'entente de l'autre. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui peut exister. Mais en même temps, il me semble que ça ne suffit pas. Il faut qu'à un moment donné, tout le monde soit aussi un peu conscient, pas seulement de son intérêt personnel, mais de l'intérêt de l'autre, et qu'il puisse y avoir du dialogue dans les intérêts. Il puisse y avoir du dialogue dans la façon dont les gens vont non pas mobiliser de la motivation, mais vont mobiliser de l'engagement. En réalité, une des choses qu'on a appris dans la sociologie du travail, c'est qu'un des principaux problèmes des salariés, c'est qu'ils veulent en faire trop. Hein, les ergonomes, quand ils regardent ce qui se passe dans les entreprises, ils regardent que les salariés ont en général un investissement énorme sur leur poste de travail. Ils veulent en faire plus souvent que l'entreprise ne leur permet. Et donc la question souvent n'est pas de gérer quelque chose qui est un antagonisme de l'ordre d'une opposition, mais plutôt d'essayer de voir comment est-ce que le chef d'entreprise attend formellement la réalisation d'un ensemble de choses et comment en face le salarié veut générer autour de ça un espace de créativité qui lui permettrait d'aller plus loin. Et c'est ça souvent qui fait problème. Hein. Alors après, on a des réactions de gens qui, parce qu'il y a eu un conflit, parce qu'il y a eu une neutralisation, parce qu'il y a eu une frustration, vont rentrer dans des mécanismes de dénégation ou dans des mécanismes d'opposition. Mais bon, c'est alors c'est pas un psychosociologue là, mais c'est quelqu'un qui a fait un film qui est bien connu, c'est celui du CNAM là dont je perds un peu le nom. Voilà, Christophe Dejour, qui montrait bien que avant qu'un certain nombre de salariés ne se rebellent contre l'entreprise, ils avaient été notamment dans des structures commerciales eux-mêmes les fauteurs de troubles de quelque chose qui poussait à une compétition à l'intérieur de l'entreprise. Et il montrait comment est-ce qu'un certain nombre de gens pouvaient être ambivalents du point de vue de cet investissement. Donc je pense qu'il faut prendre conscience du fait que si les gens ont des intérêts antagonistes, ce n'est pas parce que ces intérêts sont antagonistes qu'ils ne dialoguent pas et qu'ils n'ont pas une vision quelquefois de synergie sur ce qu'il faudrait faire. Et c'est quelquefois ça qui pose problème. Hein. C'est que le salarié voudrait en faire presque plus que le patron parce que le salarié aussi il veut grandir. Il voudrait être reconnu. Mais quelquefois, le patron ne le reconnaît pas comme il le voudrait, lui. Et c'est ça qui pose souvent problème. C'est ça qu'il faut réussir un peu à déverrouiller. Et c'est là où il faut trouver des espaces où on peut donner de la place aux salariés sans que ce soit forcément contributif. Et à d'autres moments, comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui soit contributif à l'entreprise et qui puisse rentrer dans un système après d'échange et un système de négociation, j'allais dire tout à fait officiel. Tu as fait ça, c'était bien, j'en ai tiré un intérêt. Et ça, c'est pas simple, me semble-t-il, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de malentendus et quelquefois beaucoup de faux-semblants aussi de la part des uns et de la part des autres.
Anne, tu veux réagir ? Vas-y.
Non, ce n'est pas une réaction. C'était pour répondre à la question posée de cette matinée là, sur comment favoriser finalement cette rencontre partenariale. Nous, à notre niveau, on est sur une stratégie qui passe par un travail de médiation, par les réseaux, en fait, par les têtes de réseau. Enfin, ça, c'est un des aspects, en tout cas. Donc, Lisa Harel, la directrice du SPN, devait être là ce matin. Enfin, typiquement, c'est le type de réseau avec qui on travaille pour faciliter justement l'interconnaissance entre nos adhérents respectifs. Hein. Voilà, ça peut passer de toute façon que par la rencontre humaine. Après, la méthodologie, je pense qu'il faut la construire aussi avec les acteurs. Enfin, voilà. Mais en tant que tête de réseau, on a ce rôle de médiation. Je pense que c'est une fonction qui peut porter ses fruits. Donc avec les autres filières, je viens de le dire, mais aussi avec d'autres réseaux constitués. Je pense notamment Pour notre part, en tout cas, on a commencé à dialoguer avec le CREDES, Comité Régional des Comités d'Entreprise, parce qu'on s'est aperçu aussi que nos adhérents étaient très rarement en lien, finalement, avec ces organismes. Donc il y a certainement quelque chose à fabriquer ensemble pour faire se rencontrer les salariés qui sont élus au sein de leur CE et qui, pour certains d'entre eux, en tout cas, cherchent aussi à sortir d'une logique purement consumériste, en fait, de logique d'abonnement, etc. Enfin, donc là, je pense qu'il y a tout un travail à mener. Et puis enfin, l'autre aspect aussi qu'on commence à travailler, c'est l'intégration ou la relation avec les clubs d'entreprise locaux. Et à ce titre, j'ai un exemple alors qui relève pas de nos acteurs, mais plutôt d'un témoignage que j'ai entendu lors de la conférence régionale sur l'ESS. C'était le directeur des ateliers du bocage à Thouars, qui est une société coopérative de réinsertion et de recyclage. C'est un projet assez incroyable. En fait, quand ils ont fait leur demande d'adhésion au club d'entreprise, j'ai dit Thouars, pas du tout, c'est Bressuire. En fait, ils se sont fait bouler, quoi. Bon, ça s'est régulé. Ça s'est, au final, aujourd'hui, ils sont adhérents du club d'entreprise. Mais voilà, je pense qu'il y avait quelqu'un qui parlait de ça tout à l'heure. C'est toi, peut-être, Jackie, sur le fait que si le président n'avait pas été, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Donc, voilà, c'est juste une anecdote, mais bon, ça montre aussi peut-être certains freins qu'il faut vite dépasser. Et c'était d'autant plus intéressant pour dans ce cas de figure. Puisque c'est une entreprise de réinsertion, en fait, ça a permis aussi, très logiquement, de faire se connecter leurs compagnons, c'est comme ça qu'ils s'appellent, avec les entreprises du territoire. Voilà un petit peu, nous, la stratégie globale, c'est vraiment s'appuyer sur les réseaux constitués et être force de médiation entre les acteurs. Voilà. Mais en construisant, encore une fois, la méthodologie avec eux, parce qu'il ne faut jamais présupposer, préjuger des besoins et des manières de faire. Donc autant que faire se peut, construire ensemble les démarches de rencontre. Voilà, juste citer peut-être ce que la représentante du ministère de la Culture est présente. Il y a un appel à projet en ce moment porté par le CNV, Centre National des Variétés, la région Poitou-Charentes et l'État, justement autour de la question de la coopération. Nous en sommes très heureux puisque c'est inciter justement les acteurs à du décloisonnement et à de la collaboration. Et je pense que les réseaux tels que les nôtres ont vocation à accompagner justement les acteurs dans ces nouvelles initiatives.
Okay. Juste peut-être un triptyque à rajouter, un des membres du triptyque qu'on a peut-être oublié, ce sont les élus, mais on y reviendra peut-être, les élus locaux, la gouvernance.
Pour une fois, c'est bien. Pour rebondir ce que dit Anne, sur les personnes qui ont plusieurs casquettes, je crois qu'on est tous des hommes et des femmes frontières, je crois. On appartient tous à des réseaux différents, et je crois que c'est un peu notre responsabilité, en tout cas pour moi, de faire que les réseaux puissent se rencontrer. C'est parce qu'on est aussi ouvert sur d'autres choses. C'est dans la sociologie, je crois, on parle de ça. Ouais. Une idée concrète dans les exemples qu'on a mis dans le CJD durant la présidence. On a fait intervenir donc la représentante ou la directrice d'IPCA dans nos plénières. Et puis, du coup, elle nous a intégrés dans le comité des engagements au niveau de la gouvernance. Voilà. Donc, concrètement, c'est participer à la gouvernance des comités. Enfin, voilà. Donc, ça a un double effet. Ça permet d'avoir un regard décentré par rapport à notre mode de fonctionnement. Et puis surtout, ça permet d'apporter des richesses et d'autres choses, sans prendre le pouvoir, d'apporter, de contribuer à ça. Nous, au CJD, on a un dispositif qui s'appelle un comité de bienveillance, c'est-à-dire que ce n'est pas des conseils d'administration, c'est des choses tournantes, et on va dans chacune des entreprises pour, avec notre vision d'entrepreneurs différents, dans des secteurs d'activité différents, de dire, moi, dans mon système, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, est-ce que... Voilà. Et du coup, ce comité de bienveillance n'a pas un rôle décisionnaire, mais plutôt un rôle éclairant. Et du coup, voilà, ça suscite l'intérêt de voir qu'on peut fonctionner aussi différemment dans des organisations. Donc pourquoi pas d'avoir... au CJD, on va peut-être réussir à faire venir les énarques dans les PM, je crois. Pourquoi pas. Non, mais l'idée, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est venir aussi voir comment ça se passe chez nous. Et à partir du moment où on voit comment ça se passe chez nous, on arrête de renforcer ces représentations qu'on peut avoir et dire bah oui, c'est ça, oui, effectivement, vie ma vie, quoi. Donc je propose de faire des vie ma vie un peu dans les
organisations. La prochaine fois, tu portes le sweat
si tu veux. Et toi, le costume.
D'autres remarques, d'autres questions?
Florent Blin, donc entrepreneur culturel, mais justement, c'était juste pour rebondir sur cette dernière phrase. À la fois, on veut être créatif, à la fois, on veut renverser les silos, à la fois, on veut ne pas se présenter, etc., etc. Mais on est toujours amené à se présenter, et d'ailleurs, Jackie y tient beaucoup. Mais essayons peut-être déjà de le faire autrement et de renverser ça. Vous avez presque tous les intervenants, utilisé le terme de casquette. Et si on venait sans casquette? Voilà, donc moi je suis Florent Blin, je fais de la bande dessinée et je joue de la guitare électrique. Est-ce qu'on ne pourrait pas se présenter? Je suis Jean-Marc Neveu et j'aime le piano jazz et écrire des vers. Je suis Jackie Doniol et j'aime le jardin et lire de la philosophie. Je suis Alexis Durand-Janson, je fais pousser des courges sur mon balcon et je suis télédépendant, etc., etc.
Comme c'est toi qui anime demain, tu pourras mettre un peu en exergue toutes tes préconisations, on est ouvert à ça. D'autres réflexions, d'autres remarques, oui?
Moi, c'était plus une remarque par rapport aux représentations, parce qu'on a beaucoup parlé de décloisonnement. Donc, je m'appelle Émilie Cour, je suis chargée de mission développement local à la communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'importance des réseaux, du décloisonnement, mais j'ai senti parfois aussi une méfiance par rapport aux services publics, l'institution ou la collectivité. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la place des élus. Et je pense que quand on parle de décloisonnement et qu'on y met tant d'importance, c'est aussi important de travailler avec les collectivités territoriales, parce que les notions de capital immatériel sont des choses qui les intéressent énormément aussi. Développer l'attractivité des territoires, la créativité sur les territoires. Et donc, je pense que ce n'est pas des acteurs qu'il faut oublier.
Alors, pour notre part, on ne les oublie pas du tout. C'est vrai que je n'ai pas du tout orienté mes propos là-dessus, mais au contraire, c'est, quand on parle de décloisonnement, c'est autant vers les acteurs privés que les acteurs publics. Nous, par exemple, dans l'expérience qu'on mène, du coup, on amène les acteurs de la culture à aller rencontrer des développeurs économiques, par exemple, au-delà des chargés de mission culture avec qui ils travaillent habituellement, quoi. Et ça, c'est pas évident ni d'un côté ni de l'autre, mais du coup, c'est ça qui fait la richesse de la démarche, quoi. Donc, mais effectivement, au contraire, mais oui, à fond. Vous êtes d'où, vous? Il y a Mel dedans? Ah oui, non, c'est le pays mélois. Ok.
Non, mais la remarque est tout à fait pertinente, parce que dans le triptyque, le troisième élément du triptyque que j'évoquais, il y a évidemment les élus et les techniciens territoriaux, on peut dire ça comme ça, ce vocable. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on mobilise des élus pour les trois jours? Voilà, ça, c'est effectivement la question. On a réussi l'an dernier avec le CNAR, donc Bruno, le CAUE à l'époque de Franck Buffetot, à mobiliser à Bouillé-Saint-Paul par le biais d'un élu. Et il y avait effectivement, moi j'étais très surpris de la mobilisation, il y avait sur un séminaire En Marche, comme on l'avait appelé, Territoire En Marche, donc qui sortait un peu de l'ordinaire, il y avait une trentaine d'élus. Mais c'est très difficile de mobiliser les élus, c'est ça la difficulté. Alors peut-être qu'on ne sait pas faire, peut-être qu'on s'y prend mal, mais c'est quand même, ils sont happés aussi par une espèce de mouvement brownien parfois, et donc la difficulté c'est là.
Et je pense que... permet d'intervenir, je pense qu'ils sont mobilisés aussi, ils sont très compétitifs les uns avec les autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils sont loin, c'est le public le plus loin du décloisonnement que j'ai vu. dans le sens où forcément ils savent qu'ils sont en péril et du coup le premier réflexe c'est on se rapatrie sur nos frontières imaginaires ou construites, mais justement la solution pour eux ça passe par le cloisonnement, c'est pas l'ouverture.
Je peux contribuer d'un exemple d'hier.
Vous savez qu'il y a un rapprochement des communautés de communes sous l'égide des préfets. Et hier, j'étais avec un élu sur un département pas si lointain et il me dit, on est en rapprochement fusion de deux communautés de communes, mais mon problème, c'est que j'ai ma directrice générale des services qui vient me présenter un budget prévisionnel de la mutualisation des deux communautés de communes et qui me dit, on ne fera aucune économie, monsieur. Et quand lui est chef d'entreprise, il était très étonné. Et au final, elle lui dit, ah, mais vous oubliez qu'il y a le statut de la fonction territoriale, donc tous ceux qui sont là restent là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais laisser à Marie-Pierre, qui a été un peu animatrice comme ça du jour au lendemain, si j'ose dire, mais enfin, je connais quand même son secteur. Peut-être livrer aussi quelques éléments de conclusion, enfin de réflexion. Et puis ensuite. Évidemment, on pourra aller déjeuner. Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, c'est encore possible de le faire. Il reste encore quelques places. Mais il y a encore une question avant, Marie-Pierre.
Oui.
Philippe Verin, consultant. Je réfléchissais enfin, sur temps court, temps long, entreprise, créativité, et aussi français. En fait, dans le temps court et temps long, le problème de l'apprentissage de la langue, bien sûr, c'est dans le temps long, hein. Effectivement, et en plus, l'entreprise est prise dans le temps court et la créativité, c'est souvent un temps de réactivité. Et donc, je pensais qu'il fallait croiser un petit peu, chercher à croiser un moment donné, par des projets, bien sûr, naturellement, des temps de créativité interne dans l'entreprise, PME ou grosse entreprise ou petite PME, laisser des champs d'ouvert de créativité pour que, bien sûr, le salarié, si on parle de salarié, puisse réagir à une créativité, je dirais, produit, hein, mais qu'on puisse aussi ouvrir à une créativité externe à l'entreprise du genre territorial ou Internet, enfin un jeu comme un jeu pour les jeunes qui utilisent l'informatique et le multimédia, et en même temps rapprocher au fur et à mesure, chaîner au fur et à mesure cette implication, je dirais, créative du salarié par exemple, avec des moments de jeux test, comme il y avait dans Voltaire, dans le projet Voltaire, mais des jeux test et des jeux qui après structurent progressivement la langue française dans ce jeu réactif. Voilà, un petit peu ce croisement pour que aussi dans ces moments de créativité émerge aussi par rapport au salarié une créativité naturelle, hein, dans un territoire pour permettre effectivement la levée de nouveaux créateurs ou de nouveaux chefs d'entreprise ou de salariés créatifs.
Il y avait encore une autre demande de prise de parole que j'avais un peu zappée. Je m'en excuse, mais je me rattrape.
Oui, Agnès, notre association fait partie d'un collectif de 40 associations qui est un réseau à Poitiers. Nous avons invité un chef d'entreprise la semaine dernière qui est venu parler de la valorisation des déchets et de la valorisation de la personne. Lui, il travaille avec des femmes pour créer des entreprises au Sénégal. Donc, c'est le groupe Senghor qui est venu la semaine dernière à Poitiers et qui venait en soutien à notre association Fanden pour la création d'un écocentre au Sénégal. Donc, il en a déjà créé 4 et son slogan auprès de l'université, il a intervenu auprès de la faculté de géographie et auprès des prépas au niveau de Poitiers. Son slogan, c'était « Libérez le potentiel que vous avez en vous. Libérez ce potentiel individuellement et collectivement pour créer des entreprises. » Donc, voilà, moi, j'ai retenu de cette personne, M. Senghor, Stéphane Senghor, qui était là la semaine prochaine, à dire « Pourquoi travaillons-nous pas collectivement pour que chacun soit quelqu'un, un individu à part entière ?»
Alors, juste avant de laisser la parole à Marie-Pierre, deux indications. Donc, je vais parler du déjeuner, ça se déroule au-dessus, hein, il y a juste les escaliers à monter. Et deuxièmement, vous avez une libraire, alors c'est une librairie nomade, nous avons découvert sur le Poitou-Charentes, qui est à Courson-d'Aunis, mais qui circule. et qui assure la librairie pendant 3 jours. Voilà, je vous le signale, Madame Muriel Moulin. Voilà, Marie-Pierre.
Merci beaucoup pour l'ensemble des interventions. J'aurais souhaité glisser très rapidement deux expériences d'artistes que j'ai pu accompagner qui répondent à ce croisement des initiatives. L'une a été montée par un collectif d'artistes autour d'un instrumentarium de percussion, le gamelan javanais. Et il est aux confins, on aura peut-être l'occasion dans les heures qui viennent, peut-être de creuser cet exemple pour ceux que ça intéresse, qui est vraiment aux confins de ce travail sur le rôle de l'individu dans le collectif, ce qui permet du coup de travailler sur des approches managériales, les postures, les savoir-être, qui répond à, par exemple au travail qu'évoquait Laetitia tout à l'heure, qui est aussi aux confins de la compétence individuelle, comment, même dans un cadre, puisque au fond nous avions une intervention qui associait cette question du cadre, besoin de répondre à une demande, par exemple à de l'entreprise, mais d'un autre côté, trouver un espace de liberté. Et donc, à travers ce travail autour de ces percussions, qui est un instrument collectif, mais où chacun joue un rôle et change de rôle, enfin, y a des règles, je dirais, du jeu, on arrive à mettre en œuvre, dans un travail avec les entreprises, dans le cadre de la formation au management, dans le cadre de la réinsertion sociale, dans le cadre tout simplement du mieux vivre ensemble, on arrive à avoir des progrès. Je crois que c'était Jean-Marc Neveu qui disait que, à la place de beaucoup de mots, ces mises en situation sont fondamentales, et de l'expérience de l'accompagnement que j'ai avec ces artistes qui ont des propositions pour l'entreprise, pour la société, je le confirme très fortement, et c'est pour ça que je souhaite proposer à Jackie de continuer à poursuivre ces débats lors de prochains ateliers. Alors, difficile de faire une conclusion parce qu'il me semble qu'on est en chemin. On a vu de très nombreux exemples qui ont fait leur preuve. Donc je pense que la volonté de multiplier ces démarches croisées est bien présente. On ne peut que chacun faire œuvre de médiation pour multiplier tous ceux qui vont prendre la route avec nous. Nous avons parcouru aussi des éléments d'analyse qui nous ont permis évidemment de mettre en évidence des freins, mais aussi des opportunités. Alors, j'ai le réflexe de l'analyse marketing bien connu, mais il me semble qu'à ce stade, avec tous les matériaux rassemblés dans cette matinée, il y aurait moyen peut-être de faire déjà un premier, peut-être une approche certes schématique, mais qui va permettre peut-être de travailler aussi les termes, de travailler ces freins pour envisager peut-être une mise en commun et de passer à l'étape d'après pour commencer à voir comment ensemble on peut faire profiter un plus grand nombre de toutes ces initiatives. Une fois de plus, on l'a bien dit, sans recette, et j'ai beaucoup apprécié cette chose quelquefois peu importante, mais qui est souvent la cause de l'échec de beaucoup d'initiatives, c'est la méthodologie. Elle est particulière et elle se fait ensemble pour chaque projet. Voilà, donc je souhaite que ce soit le début d'un travail d'ici aux 5e journée 2016.
Ok, merci Marie-Pierre. Merci. Merci à tous. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous dis, il y a encore une possibilité, vous voyez, avec Céline. Et d'autre part, on reprend à 14h et on fera le lien, puisque Jean-Marc a évoqué le sport, précisément, ça sera la créativité des sports de nature.